Henri Guillemin, quand et pourquoi avez-vous commencé à écrire?
C'était bien simple, c'est quand j'ai préparé ma thèse de doctorat. Vous savez que dans l'enseignement, il y a l'enseignement première, secondaire et supérieur. Bon, j'étais agrégé, par conséquent, j'étais professeur de lycée, et j'avais très envie d'entrer dans l'enseignement supérieur. Pour entrer dans l'enseignement supérieur, il faut faire une thèse. Alors, je m'étais dit, je m'avais fait une thèse de doctorat, j'ai commencé en 1929, je crois. J'ai été agrégé en 1927, c'est bien ça. Cette thèse de doctorat, il y a des gens qui ont choisi d'abord leur sujet, parce que ça les passionne, et d'autres qui choisissent le meilleur sujet possible pour arriver dans la liste de ce qu'on appelle l'aptitude, n'est-ce pas, la liste d'aptitude d'enseignement supérieur. Je dois vous avouer que le sujet que j'ai choisi n'était pas un sujet qui me passionnait en soi, que je le prenais simplement parce que j'avais décidé Lamartine, parce que je suis mâconnais, et que je m'étais dit, j'ai probablement des choses à dire sur Lamartine, à trouver, il y a peut-être des documents, etc. J'ai donc parti sur une, ça s'appelait comme ça, étude historique et critique du Jocelyn de Lamartine. Et je dois vous dire, je dois vous avouer gentiment que ça ne m'excitait pas beaucoup. Simplement, je m'étais dit, il faut une thèse, bon, voilà. Alors, peu à peu, je me suis passionné dans cette thèse parce que je me suis aperçu que l'image traditionnelle qu'on m'avait donnée de Lamartine n'était pas du tout vérifiée par ce que je découvrais. Puis j'ai eu des chances. Il m'est tombé sous les yeux des documents inattendus. C'est des choses qui vont revenir comme ça dans ma carrière. Mais il faut que je vous raconte la première parce que c'est vraiment une grosse chance. J'avais quelques relations avec Macron, bien entendu, puisque je suis né ici. Et un vieux professeur en retraite m'a dit, rue Rambuteau, et la rue Rambuteau, elle est parallèle à la rue Chine, la rue de la Crétaille, il y a deux vieilles filles, là, c'est pas la peine que je dise le nom, dont je crois savoir, disait ce monsieur, qu'elles sont les petites filles, ou arrière-petites filles, du valet de chambre de Lamartine qui leur est accompagné en Orient. Devrais-je aller les voir? Oh, mon Dieu, pourquoi pas? Et puis l'idée m'était venue que peut-être en effet, c'était produit pour Lamartine ce qui s'est produit pour Chateaubriand, vous le savez sans doute, lorsque Chateaubriand a écrit son itinéraire de Paris à Jérusalem, il avait emmené un valet de chambre qui l'utilisait, capable de prendre des notes, et le journal du valet de chambre a été publié parallèlement à celui de Chateaubriand. Si jamais ce valet de chambre qui s'appelait Geoffroy du Côté, la chambre de Lamartine, avait pris des notes, ça serait passionnant. Alors j'ai été voir ces deux personnes, j'ai été un peu intimidé, mais elles étaient tout à fait gentilles, parce que je me présentais comme un agrégé, ça faisait encore à ce moment-là des impressions. Et ils m'ont dit, mais oui, on a des carnets, des cahiers du grand-père. Alors pensez à l'état dans lequel j'étais. Et évidemment, ces cahiers du grand-père étaient saisissants. Ce Geoffroy du Côté, il écrit de pas un très bon français, quoi, il n'y a pas de faute de français, c'était plat, quoi. Mais je ne lui demandais pas de faire la littérature, je lui demandais de rapporter des faits. Et il donnait des choses d'un grand intérêt. Par exemple, négatives et de positives. Négatives, quoi? Ben, Lamartine, à son voyage en Orient, raconte qu'il avait frété, c'est vrai, un voilier pour lui et sa famille, et que la navigation était pleine de périls, et qu'aux alentours de Malte en particulier, il a failli être attaqué par des pirates. Et bien, le Geoffroy du Côté n'a jamais parlé de pirates. Ça, c'est une invention plus récente de Lamartine pour se faire lire. Bon, ça, c'est négatif. Mais c'est positif, voilà une chose extrêmement intéressante. Lamartine a perdu la foi quand il était là-bas, en Orient, pour des choses, enfin, nous verrons tout à l'heure, peut-être. Mais le valet de chambre ajoute un détail que Lamartine se gardera bien de publier et que voici. Ils avaient pris une caravane pour aller de Beyrouth jusqu'à Jérusalem, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Lamartine y allait dans des dispositions assez fiévreuses. C'est un homme qui a eu 100 textes à fond disparaissait et qui s'était dit, peut-être sur cette terre, comme dira lui-même, qui a germé le Christ, ma ferveur va reparaître. Toujours est-il, il y allait fort ému. Et Geoffroy du Côté raconte ceci. Lorsque nous étions à une certaine distance de Jérusalem et qu'on ne voyait pas encore, notre guide arabe nous dit, voyez, monsieur, si vous montez sur cette colline, au sommet de la colline, vous apercevrez de l'autre côté Jérusalem. J'étais derrière monsieur, c'est comme ça du côté du jour, j'étais derrière monsieur, et monsieur, comme on dit, pique des deux, et le voilà qui part sur sa jument pour galoper en avant de tout le monde pour arriver au sommet de la colline. J'étais derrière lui. Et je vois monsieur, lorsqu'il est arrivé au sommet de la colline, qui effectivement envoyait le mural de Jérusalem, qui est venu de son cheval, qui est mis à genoux, et qui a embrassé la terre. Bon, c'était très impressionnant que le marquis ait fait ça, mais il ne l'a pas dit. Alors voilà un petit document qui me surgissait, qui me sautait au visage, et donc je me suis dit, mais comme ça change, en fait, comme c'est pas du tout le Lamartine, un peu mollasson, qui est écrit dans un langage fané, et qui semble un peu féminin. Puis alors, étudiant de plus en plus mon personnage, je me suis aperçu qu'effectivement, c'était un homme très viril, qui avait des idées très précises, qui politiquement savait parfaitement où il allait dès 1831. Et c'est à ce moment-là qu'après avoir terminé la thèse, je me suis dit, mais ce que je viens de découvrir absolument par hasard, à savoir que Lamartine n'est pas conforme à l'image qu'on m'avait donnée de lui, ben, il y a bien des chances pour que si j'applique ma méthode, c'est une méthode de recherche, d'investigation, à d'autres, qui ont une figure traditionnelle, cette figure traditionnelle, peut-être qu'une étude en profondeur va la modifier profondément. Alors c'est là, voyez-vous, c'est là que je me suis décidé à faire de nouvelles démarches dans la direction d'autres personnes. Le premier que j'ai étudié, c'est Jean-Jacques Rousseau, parce que j'avais été élevé dans l'idée, quoi, c'est ce qu'on me disait en classe, que commencé, qui était une sorte de fou, qu'à la fin, il était victime d'un désordre occidental. J'ai travaillé, et j'ai aperçu, et j'étais sûr de ce que j'ai dit, que si, à la fin de sa vie, Rousseau, elle a donné des signes de détraquement, c'est parce qu'il était traqué. C'est un homme qui est doublement traqué, il était traqué du point de vue religieux, parce qu'il n'était pas catholique traditionnel, protestant et même libéral, et traqué du point de vue politique, parce qu'il avait des idées qui déplaisaient horriblement aux encyclopédistes. Alors, après avoir passé par Rousseau, après avoir rétabli ce que je croyais être la vérité sur Rousseau, j'ai regardé du côté de Victor Hugo. Ça, je dois vous dire, c'est encore une veine, une chance qui m'est arrivée. J'ai été mis en rapport avec Jean Hugo, l'arrière-petit-fils, 1948, je crois. Et Jean Hugo, avec une extraordinaire générosité, s'intéressant à ce que je voulais faire, me dit, mais écoutez, dans la famille, on a encore beaucoup de textes inédits de l'arrière-grand-père. Alors, il m'a mis à ma disposition 41, vous entendez, 41 carnets intimes de Victor Hugo, qui n'avaient jamais été publiés. Et toute la correspondance familiale. De nouveau, le personnage s'est transfiguré. On m'avait appris, dans mes classes, toujours dans mes classes, on m'avait appris, Victor Hugo, admirable d'artiste dans des herbes, sa balle retentissante, les pensées, zéro. Et mais il disait, enfin, il laissait entendre que Victor Hugo était un imbécile. Et d'autres disaient, c'est un esprit sous-primaire. Et voilà qu'en étudiant, non pas seulement qu'il m'a dit, mais en lisant les textes, je me suis aperçu que c'était un homme, une substance de pensée étonnante. Alors c'est là que le déclic vraiment s'est produit en plusieurs étapes. Déclic à Martine, déclic à Jean-Jacques Rousseau, déclic Victor Hugo, je me dis, mais l'histoire littéraire, elle est pleine de légendes. Il faudrait reprendre les choses une à une. Dans une vie humaine, on ne peut pas le faire, on va faire quelque chose. Alors j'ai travaillé sur un certain nombre de gens pour essayer de substituer à la légende traditionnelle ce qui m'apparaît être comme la vérité.
Cette recherche de la vérité de façon systématique a fait dire de vous, Guillemin est un iconoclaste de profession et d'obsession.
Oui, hélas. Je sais très bien, il m'est arrivé de faire des articles, des livres hostiles. Au point de vue d'histoire, mis en tout à l'heure, si la Napoléon, c'est évident. Et au point de vue littéraire, j'ai fait deux livres hostiles, c'est vrai. Et un autre demi-hostile. Le livre le plus hostile est sur Benjamin Constant. Un second livre assez hostile est sur Vigny. Et le troisième, c'est sur Madame de Staël. Ça, c'est moins hostile que souriant. Qu'est-ce qui s'était passé là encore? Pour Benjamin Constant, l'éclipse s'est produite comme ça. J'étais en train de traduire la Révolution française. Je regardais ce qui s'était passé en Seine-et-Oise. Je suis arrivé à l'Usarche, c'était aux Archives nationales. Et en regardant le dossier l'Usarche, vraiment, vous savez, plein de poussière. Je suis sûr qu'il y avait un peu de gens qui allaient miner là-dedans. J'ai trouvé une petite feuille de papier rectangulaire avec une signature parfaite, Benjamin Constant. Dans le coin supérieur gauche, il y avait au citoyen Cotin, chef de la police, en main propre. Et c'était une dénonciation. Benjamin Constant, tout s'il était, voulait se réélire aux 500, à la chambre des 500. Il n'en avait pas le droit, mais enfin il espérait qu'on l'oublierait qu'il était suisse. Alors il y avait un type qui le gênait, c'est le curé, qui s'appelle l'abbé Houdaille, curé du Usarche, qui trouvait que ce Benjamin Constant était mal, quoi. Alors Benjamin Constant, profitant de ce qui venait de se produire l'événement de Fructidor, vous rappelez peut-être que Fructidor, ça a été un mouvement très anti-religieux, Fructidor dénonçait aux citoyens sotanistes de la police le curé Houdaille, en disant je ne demande pas qu'on l'arrête, je demande simplement qu'on l'éloigne. Alors, je me suis renseigné sur le destin de ce monsieur éloigné. Je me suis aperçu qu'il avait été en effet singulièrement éloigné, puisqu'on l'a envoyé en Guyane où il est mort l'année suivante. Donc, tout à coup, je m'apercevais, j'avais sous les yeux la preuve que Benjamin Constant, le muscadin Benjamin Constant, avait sur la conscience, quoi, la responsabilité de l'arrestation d'un pote qu'il a envoyé creuser en Guyane. Voilà, bon, je suis parti là-dessus et j'ai fait un livre qui s'appelle Benjamin Constant muscadin, où j'ai dit, on nous a raconté des blagues sur Benjamin Constant et le parlementarisme, sur Benjamin Constant et la liberté. Il faut savoir qu'elle a été réellement sa politique entre 1795 et 1800 et qu'il a soutenu très vigoureusement Bonaparte pour son coup d'État. Un. Deux, Vigny, encore une chance. Ça, c'est autre chose. J'étais attaché culturel à Berne et voilà une personne qui voulait vendre des manuscrits importants à la Bibliothèque nationale et qui m'avait demandé, si j'étais l'intermédiaire légitime, quoi, officiel, si je pouvais examiner ces manuscrits et voir s'ils étaient vendables. J'ai servi d'intermédiaire, je devais voir ces manuscrits, c'est ce que m'avait dit mon ambassadeur. Et là, j'ai fait encore une découverte. Presque, hélas, presque dans le même sens que le résultat de Benjamin Constant. À savoir qu'il y avait des notes prises par Vigny pour les entretiens qu'il avait avec le préfet de la Charente. Vigny avait sa propriété, vous le savez bien, en Charente. Nous sommes au lendemain du coup d'État, il a eu très peur au moment de la révolution de 1848, il a peur pour ses logis et pour sa propriété. Par bonheur, maintenant, est arrivé le coup d'État. Alors il va voir assez régulièrement le préfet de la Charente pour lui dénoncer, comme Benjamin Constant est là, lui dénoncer un certain nombre de gens qu'il faut soit arrêter, dit-il, soit surveiller. Comprenez bien, un homme comme Victor Hugo, comme Chateaubriand, comme Lamartine, on fait de la politique. Mais vraiment, vraiment, je ne représente pas ni Chateaubriand, ni Victor Hugo, ni Lamartine, faisant cette politique-là, c'est-à-dire une politique d'énonciation policière. Tout à coup, Vigny m'apparaissait comme un indicateur de police. Attention, pas un indicateur payé. Il se faisait pas remettre du fait, pas du tout. Mais à cause de sa passion anti-républicaine, il dénonçait un certain nombre de gens qu'il estimait dangereux pour le gouvernement. Une de ces dénonciations qui m'avait le plus irrité, était celle d'un juge de paix dont il disait « doit être surveillé de près car il pousse les jeunes filles à ne pas se marier à l'église ». C'est mignon, hein, quand on pense que Vigny est un agnostique, qu'il a écrit l'admirable, j'ai dit l'admirable, forme du silence, vous savez, sur Dieu. Le juste opposera le dédain à la France et ne répondra plus par un froid silence au silence éternel de la divinité. C'est très beau, Gilles, c'est très beau. Mais alors, M. Téléchal n'a pas le droit de désigner quelqu'un à la surveillance de l'État en disant qu'il ose pousser les jeunes filles à ne pas se marier à l'église. Alors, évidemment, j'ai fait un bouquin violent qui s'appelait donc M. Vigny, homme d'ordre et poète. Ce bouquin était en deux parties inégales. L'homme d'ordre, il y avait ce que je viens de vous dire et autre chose. Il y avait 30 pages. Puis il y avait 200 pages sur le poète parce que dans les manuscrits dont je vous parlais, donc il y avait des intermédiaires pour la vente à la Bibliothèque nationale, il y avait des tas de documents littéraires du plus haut intérêt. Alors figurez-vous, c'est parce que j'ai fait ces trois bouquins. Au total, j'en ai fait, je sais pas, j'ai pas compté, mais enfin, 30-35 bouquins. Parce que j'ai fait trois bouquins hostiles, je suis devenu, paraît-il, systématiquement, l'homme que l'on désigne comme iconoclaste, comme celui qui se déchaîne contre les statues. C'est pas vrai. Je suis très content de rétablir la vérité. Quant à la place d'une légende fâcheuse, je peux mettre une vérité glorieuse. Quant à la place d'un Victor Hugo imbécile, je peux mettre au contraire un Victor Hugo noble. Quant à la place d'un Zola qu'on m'avait décrit enfant comme un pornographe et comme un mauvais français, je pouvais mettre au contraire un Zola pas du tout pornographe, anti-pornographe, et très décidé à défendre ce que la France avait de meilleur en elle-même. Je suis très content quand je peux substituer, vous dis-je, une vérité belle à une légende mauvaise. Mais je dois ne pas hésiter non plus à substituer une vérité triste à une légende trop belle. Je ne suis pas un iconoclaste, je suis un homme passionné de vérité. Je ne peux pas supporter le mensonge. Il y a des tas de mensonges dans l'histoire littéraire et des tas de mensonges dans l'histoire. C'est dans ce sens-là que je travaille.
Donc, après avoir cherché à rétablir la vérité en littérature, vous vous êtes intéressé à l'histoire. Pourquoi ?
Eh bien voilà, j'ai été amené à l'histoire obliquement, vous allez voir comment. Lamartine. Eh bien, il n'y a pas moyen de connaître vraiment Lamartine si on ne sait pas son rôle politique. J'ai fait une brève allusion tout à l'heure, avant Jospin, Jospin 1836, j'avais étudié la politique de Lamartine au lendemain de la Révolution de Juillet, ça m'avait déjà bien intéressé. Mais comme je voulais avoir une idée générale du personnage, j'ai été obligé de lui dire quoi ? 48 ! Parce qu'en 48, il a été pratiquement le chef de la France. Alors j'ai été conduit par Lamartine à faire un bouquin que j'ai fait, que j'avais appelé d'abord la tragédie de 48, je l'ai refait sous une deuxième forme dans la collection des 30 journées qui ont fait la France, j'ai intitulé ça, je crois, la première résurrection de la République du 1848. Hugo. Quand je travaillais sur Hugo, comment comprendre Victor Hugo si on ne sait pas pourquoi il s'est déchaîné un échappement ? Pourquoi il a écrit Napoléon le Petit ? Pour comprendre le Victor Hugo, l'échappement et Napoléon le Petit, j'étais obligé, d'étudier le 2 décembre. Et j'ai fait un livre qui s'appelle en effet Le coup du 2 décembre pour montrer ce que ça avait été et le contre-coup que ça pouvait donner chez un homme comme Victor Hugo. Quand j'ai étudié Zola, je suis parti du Zola écrivain, du Zola de Rouault-Macquart. Et je ne pouvais pas ne pas rencontrer aussi le Zola de l'affaire Dreyfus. Alors j'ai étudié l'affaire Dreyfus. Ce qui vous montre que sur trois plans, trois fois, c'est l'histoire littéraire qui m'a conduit à l'histoire tout court. Mais il m'est arrivé plusieurs fois, et maintenant je suis en plein là-dedans, d'étudier l'histoire en elle-même, de ne plus me préoccuper d'une introduction littéraire, mais d'étudier pour elle-même. C'est ce que j'ai fait par exemple pour la guerre de 1870, lorsque j'ai fait trois volumes dans la perspective de la Commune, pour expliquer comment la politique intérieure qui se passait en 1870-1871 amenait presque obligatoirement l'insurrection de la Commune. Et puis j'ai fait un dernier bouquin d'histoire qui s'appelle Nationalistes et Nationaux, qui n'a aucun substrat littéraire, qui est uniquement de l'histoire, et j'ai l'intention du reste de poursuivre dans cette voie.
Mais votre approche de l'histoire pose finalement le problème de l'objectivité historique. Y a-t-il...
Terrible sujet, allez.
Y a-t-il une histoire ? Est-ce qu'on fait l'histoire ? Ou bien encore, au-delà des faits, y aurait-il une lecture des faits ? Parce que si l'on se penche seulement sur les titres de vos ouvrages, je choisis Le coup du 2 décembre, cette curieuse guerre de 70, l'énigme d'Esterhazy, l'arrière-pensée de Jaurès, Napoléon tel quel, Jeanne dite Jeanne d'Arc, le moins qu'on puisse dire est que vous opérez au minimum une remise en question de ce qu'aucun considère comme acquis. Vous laissez donc supposer, non pas qu'il s'est passé autre chose, mais qu'on peut certainement le rapporter autrement.
C'est ça. Vous avez prononcé un mot assez terrible, le mot d'objectivité. Y a-t-il une objectivité dans l'histoire ? Ben, je dirais carrément non, je n'y crois plus du tout. Il y a peut-être moyen, quand on fait des cinériens, de ne pas être passionné. Mais dès qu'on traite des histoires plus contemporaines, dès qu'on parle de choses, même comme l'histoire romaine, l'histoire grecque, qui ont des retentissements, même incertains, sur la vie contemporaine, il n'y a pas moyen d'être objectif. Alors je trouve que la loyauté est de dire qu'on ne l'est pas. À savoir, comprenez-moi bien, qu'on n'est pas impassible, qu'on n'est pas simplement un témoin qui rapporte sans s'en faire des faits qui lui sont étrangers, mais à côté de cette non-impassibilité, il y a une loi fondamentale qui est la loi de la loyauté. Alors voilà ce que j'essaye de faire. Je dis carrément ce que je pense. Je dis nettement pour qui je suis. J'ai été très ému quand j'ai lu dans l'histoire sociale de la Révolution de Jaurès une petite phrase où lui-même parle de cette fameuse objectivité sans employer le mot, mais en disant ceci, je crois pouvoir citer exactement. Ces grands morts nous interpellent. Es-tu avec moi? Es-tu contre moi? Ben, je sais très bien quand j'ai fait l'histoire avec qui je suis et contre qui je suis. Alors ça, je le dis, je le laisse s'entendre parfaitement parce que je n'aime pas la fausse objectivité, je n'aime pas l'impartialité menteuse. Qui? La dinde, par exemple. Jacques David est un exposant aux fondations françaises, vous le savez bien, mais qui prenait l'allure de quelqu'un d'absolument froid, même glacé, et qui faisait semblant de rapporter des faits auxquels il ne participait pas. Alors si vous lisez bien les phrases de Jacques David, vous apercevez que l'éclairage des faits ou les choix des mots comportent presque toujours quelque chose de sous-entendu, de latin, mais qui est visiblement orienté. Et bien au lieu de faire semblant de ne pas orienter, j'avoue que je suis orienté. Je dis ça, je n'aime pas, ça j'aime. Mais la loi fondamentale, c'est de ne rien dissimuler ce qui vous gênerait. Tenez par exemple, à propos de Robespierre, j'aime beaucoup Robespierre, et je suis obligé de dire qu'il y a des aspects de Robespierre qui me déplaisent. Pourquoi est-ce que Robespierre s'est acharné, par exemple, sur ce prêtre apostat, qui s'appelait Jacques Roux, qui était un enragé, comme on dit à ce moment-là, qui était un anévertiste. Il l'a vraiment persécuté. Il a été emprisonné, on l'avait relâché, il l'a refait mettre en prison, malheureusement, il a fini par se suicider en prison. Puis il y a d'autres aspects de Robespierre, selon son côté orgueilleux et gênant, qui m'agacent. Jamais je ne songerai à dissimuler ce qui me gêne chez quelqu'un. Parce que je vous le répète, la première grande loi, c'est d'être honnête, c'est de dire la vérité. Victor Hugo, il y a aussi des choses sur lui qui n'est jamais. Dieu sait que je suis à 95% pour lui. Mais en même temps, il y a une mise en scène, en même temps, il y a de temps en temps une préoccupation de se pousser, de se mettre en avant, même un peu ridiculement, comme on dit, 70, avec son képi du siège. Il faut le dire. Mais la grande préoccupation, c'est de renverser les légendes dont on nous a écrasé, soit, comme je le disais tout à l'heure, en histoire littéraire, soit en histoire, et de leur substituer une vérité quelque soit cruelle, et comme disait Robespierre, pour moi je suis coupable, c'est la vérité qui est coupable.
Vous dites, je m'occupe d'histoire. Vous considérez-vous vous-même comme un historien ou comme un commentateur?
Revenons un peu en arrière. Hein. Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une lecture des faits. Il m'en vient à l'esprit la Révolution. Les faits de la Révolution, interprétés par Michelet, ou tels que je les vois, ce sont les mêmes. Et cependant, ma lecture en est différente. Tenez par exemple la Fédération. J'en parlerai peut-être occasionnellement. La Fédération, pour Michelet, c'est une grande fête nationale où les Français prennent le sentiment de leur patriotisme. La vérité est tout à fait différente. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On avait constitué à l'intérieur de Paris d'abord, sous la pression de Lafayette, une espèce de milice auxiliaire pour faire tenir compte des étudiants. Au mois de juillet et d'août 1789, il y a eu des chapeaux qui avaient flambé parce que les paysans attendaient que l'on supprimât leur dîme au clergé et leurs droits seigneuriaux, féodaux, et ça ne se faisait toujours pas. Alors ils se sont soulevés. Si bien que des gardes nationales s'étaient également établies en province et dans la campagne, elles aussi pour faire taire tranquille les misérables, les petits gens. Et bien, la fédération, ça a été réunion, armée, pour la première fois armée, de tous ces délégués des gardes nationales, qui disaient aux citoyens passifs, nous sommes la force, hein, nous avons les canons, nous avons les fusils, alors vous ne bougez pas. Si bien que ma lecture, comme vous dites, ma lecture de la Fédération ne ressemble pas à celle de Michelet. Comme Michelet vous parle aussi de la nuit du 4 août, et qui dit que ça a été un moment extraordinaire, ça a été 1000 ans de féodalité abolie en quelques heures. Mais c'est qu'il n'a pas bien regardé les textes. S'il avait vu les textes, il aurait aperçu que qu'est-ce qu'ils ont proposé, les seigneurs? Ils ont proposé de rendre rachetables, ils ont abolie rachetables les droits féodaux. Et on leur a fait croire tout de suite que les droits féodaux sont abolis. Autre exemple, Jeanne d'Arc. Vous savez, j'ai été extrêmement pris à partie par une spécialiste qui a pourtant très bien travaillé sur Jeanne, parce qu'elle a estimé que j'avais dit une sorte de bêtise. Et il est vrai, j'en ai. Je me suis trompé sur les points de détail, tout d'un c'est important, je me suis lourdement trompé au propos du sacre, confondant deux noms propres, Saint-Rémy et Saint-Denis. Mais qu'est-ce que j'ai voulu apporter au sujet de Jeanne d'Arc, ceci? Primo, le procès de Jeanne d'Arc est un procès régulier, un procès d'inquisition. La tradition veut, et c'est ce qui était répété encore par cette dame, et si on veut que ce soit les Anglais d'une part et les cochons tout seuls d'autre part, qui soient responsables, c'est pas vrai. Il y avait un délégué de l'Inquisition, ce qui fait que Rome, que l'Église catholique était en plein dans le coup. C'est du reste la réhabilitation qui est venue de Rome, par conséquent le premier procès est un procès régulier, d'un tribunal régulièrement et canoniquement constitué, ces deux mots sont entre guillemets, ils sont pas de mots, ils sont de Jean Guiton. Deuxièmement, on nous affirme aussi que Jeanne a eu tout un peuple en armes derrière elle, qu'elle est le symbole d'une insurrection nationale contre l'étranger, ce n'est pas vrai. Il faut savoir qu'elle n'a jamais eu derrière elle ce qu'elle est mercenaire, et que quand elle a été prise à Compiègne, vous savez qui elle avait derrière elle? Elle avait 200 routiers, on appellerait ça aujourd'hui les affreux, des mercenaires qui étaient disponibles pour qu'ils les achèteraient. Elle avait mis de l'argent de côté, elle avait environ, dit-elle, 12 000 livres, elle s'est acheté des routiers, qui, des Italiens, des Piémontais, commandés par un capitaine qui avait un nom de revolver, qui s'appelait capitaine Beretta. Et bien c'est avec ces Italiens qu'elle a été prise. Derrière elle, il n'y avait personne. Il n'est pas vrai qu'il y ait eu une France en armes derrière Jeanne. C'est ce que Michelet a répondu, c'est ce que M. Claudel a répondu lui-même. Ce n'est pas vrai. Donc je trouve que quand on est en présence d'un fait, il faut d'abord cerner ce fait, voir exactement ce qu'il est, aller aux sources, étudier le document, voir ce que nous savons sur ce qu'on appelle un fait établi. Je ne dis pas qu'il faut renverser le fait, je vous dis qu'il faut le comprendre dans sa vérité, dans son ambiance, son entourage, son environnement. Qu'est-ce que c'est que ce fait? Alors bon, il y a une lecture différente du fait. Il y a aussi, je l'avoue, et je viens de vous le dire tout à l'heure, il y a aussi la participation ou la non-participation. Eh bien, je participe. Évidemment, je ne suis pas un créateur, hein, je suis un commentateur, c'est un mot que je souligne. Qu'est-ce qu'est un créateur? Ben, c'est un romancier, c'est un poète. Je n'ai pas d'imagination, je ne suis pas un romancier, je n'ai pas un poète. Qu'est-ce qu'un historien maintenant? Est-ce qu'un historien est un créateur? Attention. Je sais bien que l'histoire se vantait d'être un créateur. Mais dans la mesure alors où l'historien fait intervenir son imagination, il n'est plus l'historien. Je suis, pardonnez-moi, beaucoup plus modeste que Michelet. Je ne dis on ne peut avancer que pas à pas au millimètre. Hein. Alors là, je suis en effet un commentateur. Mais je voudrais, voyez-vous, je voudrais, c'est ma grande ambition, que là où j'ai passé, pardonnez-moi, il n'en reste une trace, que les travaux que j'ai pu faire sur Vigny, ou sur Lamartine, ou sur Victor Hugo, ou sur quelques autres, aient un peu changé le site. Qu'on puisse dire que ce commentateur de l'humain a tout de même fait avancer un tout petit peu l'histoire littéraire et l'histoire tout court. C'est en ce sens que je veux espérer que mon rôle de commentateur n'aura pas été un rôle inévitable.
Danton et Robespierre, ces deux noms sont inséparables d'un mot lourd de signification, la Révolution. Avant d'opposer les comportements de Danton et Robespierre, ne pourrait-on rappeler de quels affrontements cette révolution a été faite?
Ben bien sûr. Je voudrais partir d'un mot de Michelet qui m'a toujours fait un peu sourire. Quand Michelet dit le mouvement de 89, c'est un mouvement désintéressé, ce fut là son côté sublime. Ben, il n'en est rien, vous en doutez bien. Voyons de quoi est-ce qu'il s'agissait au XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle. Ben, au cours de ce XVIIIe siècle, s'était créée en somme en France une classe nouvelle, qu'on appellera si vous voulez la richesse mobilière par opposition à la richesse immobilière. La richesse immobilière, quoi, c'est les grands propriétaires, c'est donc l'élite de l'aristocratie. La richesse mobilière, c'est les grandes banques qui commençaient à développer, les grandes assurances qui étaient très importantes, et puis le grand commerce. Alors là, il y avait en effet une nouvelle classe qui venait se constituer, très riche, très importante, très puissante, mais justement puissante économiquement, non politiquement. Et un des clients de cette nouvelle classe, qui était l'avocat Barnave, avait prononcé en 88, je crois, les mots que voici, une nouvelle distribution de la richesse appelle, c'est-à-dire exige, une nouvelle distribution du pouvoir. Autrement dit, ces gens-là, cette nouvelle classe, estimaient qu'ils ne pouvaient pas laisser ce qu'on appellerait aujourd'hui les leviers de commande aux mains de l'aristocratie. Alors, le mouvement de 89 a été en réalité, avant tout, l'effort de cette nouvelle classe, la grande bourgeoisie, pour déloger de ses positions dominantes l'aristocratie. C'est donc pratiquement, et en fait, réellement, il faut regarder les choses en face, c'est une rixe de possédants, hein, c'est une bagarre de nantis, mais sur le dos de la caryatide. La caryatide, c'est 99% des Français. C'est les travailleurs, surtout travailleurs des champs, et aussi travailleurs d'usine plus nombreux qu'on ne le croit. Alors il s'agissait de les maintenir, c'est cette suggestion totale, hein, ça ne veut rien bouger. Au point que, on a décidé, vous le savez bien, c'est Sieyès qui en a été l'inventeur, de diviser les Français, qu'on appelle maintenant des citoyens, entre deux catégories. Il y aura les citoyens actifs et il y aura les citoyens passifs. Qu'est-ce que ça veut dire, citoyen actif? Eh bien, c'est-à-dire un type qui vote, quoi, qui a le droit de prononcer sa parole, de dire son mot dans la gestion des affaires nationales. Et alors, appeler citoyens des passifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'autre chose à faire qu'à obéir, et à accepter les directives des actifs, c'est une plaisanterie, parce que c'est chef-d'œuvre d'humour noir de parler encore de citoyens pour des gens qui n'ont absolument aucun droit, aucun pouvoir. C'est ça, le fondement de la révolution. Hein. Pensez donc que Lafayette, le 17 juillet 91, va faire une chose épouvantable. Je trouve que dans les manuels scolaires, voyez-vous, on ne parle plus du 14 juillet 89, du 14 juillet 90 à cause de la fédération, mais on pourrait parler aussi du 17 juillet 91. Parce que le 17 juillet 91, les citoyens actifs, c'est-à-dire la grande bourgeoisie, va tirer, pour la première fois, va tirer sur le peuple. Il s'agissait, vous savez, c'était l'agitation de Paris à cause du départ du roi qui avait tenté de se sauver. On l'avait ramené, il avait fait croire qu'il avait été enlevé, alors qu'en réalité, il voulait retrouver à Montmédy des troupes pour revenir sur Paris dans une race de fer et de feu, et pour rétablir 1888, quoi. Alors, comme il y avait une partie des citoyens passifs qui n'acceptaient pas, ils avaient ouvert, vous le savez bien, au Champ de Mars, un registre pour lequel on demandait la déchéance du roi. Alors il s'agit de rappeler à ces gens-là qu'ils n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche. Hein. Des citoyens passifs n'ont qu'à obéir. Des citoyens passifs qui se permettent de demander la déchéance du roi, c'est monstrueux. Déjà, si on comprend ce qu'avait été la fédération le 14 juillet 90, on nous fait croire, à la suite de Michelet, que ça avait été la première prise de conscience de l'idée nationale. Mais qu'est-ce que c'était que la fédération? C'était la fédération des gardes nationales. Et les gardes nationales, c'est le groupement armé, c'est la bourgeoisie pensée dans les fusils pour faire tenir tranquille les pauvres. Alors, quand brusquement ces pauvres se mêlaient de ce qu'ils ne regardaient pas, on les tuait. Vous savez qu'il y a environ 1000 tués ce jour-là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence totale entre ce qu'on appelle mouvement 89 et ce qui va se passer le 10 août 92. Parce qu'avec l'insurrection de la Commune de Paris, la Commune insurrectionnelle de Paris, tout à coup, c'est ce quatrième état, en fait, ce sont des citoyens passifs qui disent, mais on a notre mot à dire. À ce moment-là, c'est la République. À ce moment-là, c'est l'expression du sens. La distinction entre citoyens passifs et citoyens actifs qui reposait sur les questions d'argent va être abolie. Et enfin, on va pouvoir faire ce que Robespierre demandait depuis 1788, dans cette espèce de petit tract, on appellerait ça un tract aujourd'hui, quand il était candidat aux États généraux, où il disait, la plus grande partie de nos concitoyens est aujourd'hui réduite par l'indigence à ce dernier degré d'asservissement, où l'homme, uniquement occupé de survivre, est incapable de penser aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Réfléchir aux causes de la misère. Vous vous rendez compte de ce que c'est, quoi, aujourd'hui, on dirait que c'est de la dynamite. Demander aux gens de réfléchir pourquoi ils sont des malheureux, ben c'est ça que c'était la grande idée de Robespierre. Et on va voir l'affrontement entre Robespierre et Danton sur cette question fondamentale du droit des gens à dire la vérité et à protester contre la cible.
Henri Guillemin, traditionnellement, on oppose Robespierre, cuistre glacé et sans âme, et aux mains sanglantes, à un Danton qui est moins incorruptible peut-être, mais plus chaleureux, plus humain en quelque sorte.
Oui, c'est la tradition, c'est ce qu'on m'a appris dans mes classes, et quand j'étais jeune, il y avait cette grande bagarre entre Aulard et Mathias, les deux professeurs de la Sorbonne, Aulard le dantoniste, Mathias le Robespierre. J'ai remarqué aussi, à force d'étudier les choses, que la tradition s'était répandue hors de France, puisqu'un homme comme Bakounine considérait que Danton était un des meilleurs types. Il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé un texte de Lénine qui exalte aussi Danton à la place de Robespierre. Bon, d'autre part, vous avez parfaitement remarqué, tout le monde le sait, que Robespierre n'a pas de place à Paris, n'a pas de statut à Paris, il faut que Danton en a deux. D'où ça vient? Ben, je voudrais essayer de regarder le plus près possible ce qu'était le personnage de Danton, et d'abord, je voudrais vous dire ceci, que si on a pris Robespierre, de son vivant, en disant qu'il était fasciné par Jean-Jacques Rousseau et qu'au fond, c'est un homme qui répétait le contrat social, on était bien embarrassé de dire ce par quoi était fasciné Danton, étant donné qu'il n'avait pas, il n'avait vraiment pas de doctrine. Un des documents les plus importants sur Danton a été publié sous la Restauration, c'était Lamette, Alexandre de Lamette, je crois ne pas me tromper sur le prénom, qui connaissait bien Danton et qui a publié des souvenirs. Et bien on entend Lamette raconter que Danton lui disait à lui-même leur république de Zigot, leur sale démocratie, ce sont de curieux mots dans la bouche de ce fameux Danton. Voyez-vous, je ne crois pas qu'il fallait se fasciner sur les questions de corruptibilité ou d'incorruptibilité. Néanmoins, quand on regarde la carrière de Danton, on s'aperçoit que c'est un garçon qui a fait beaucoup d'argent pendant la Révolution. Je sais bien qu'il avait une raison normale sur laquelle Aulard a insisté, et que les acquisitions dont je vais vous parler tenaient à une source légitime. Mais enfin, c'est de même curieux que dans l'année 91 et 92, on voit Danton qui acquiert, à peu d'argent c'est vrai, grâce aux biens nationaux, un vaste domaine qui s'appelle Nuisement, un prieuré qui s'appelait Saint-Jean-du-Chêne, les gentilhommières qui étaient au centre d'Arcy-sur-Aube, et le document considérable qui a été révélé par Mathias, vous le connaissez sans doute, c'est une fameuse lettre de Mirabeau à Lamarck du 9 mars 91. Qu'est-ce que ça? Eh bien, Mirabeau, la question est réglée, on le sait depuis très longtemps, c'était avant, je ne sais pas, on sait qu'il avait trouvé chez 200 000 livres cash de la cour pour continuer à faire semblant d'être gauchiste et à faire la politique de la cour. Mais c'est Mathias qui a trouvé une lettre de ce Mirabeau. Peu de temps avant sa mort, 9 mars, il va mourir au début d'avril, à Lamarck, et Lamarck, c'était le gérant, oui, on peut dire gérant, je crois, la liste civile de Louis XVI, qui était une grosse civile, 25 millions, vous le savez. Et bien, c'est 9 mars 71, Mirabeau, écrivant à Lamarck, disait, « Sur vos instructions, hier, j'ai remis à M. Danton la somme de 30 000 livres. Pour l'époque même, c'était une somme considérable. » Alors, ce document que nous avons sous les yeux établit que Danton est un livre qui était, comme Mirabeau, vendu à la cour. Et ça, c'est même très grave, hein. S'il avait fait quelques malversations, comme il en a fait certainement avec Dumouriez, puisqu'il allait revenait tout le temps entre Paris et la Belgique, parce que Dumouriez faisait les razzias dont bénéficiait Danton, c'était moins grave qu'un Danton qui vend sa conscience et qui travaille au profit de la cour. Troisièmement, voyez-vous, ce qu'on pourrait dire sur la vénalité de Danton, c'est ceci qui est infiniment plus grave que tout, c'est que Danton est un homme qui considère la révolution avant tout, à mes yeux, enfin je l'ai bien étudié, comme une au trouble et au trouble égale bonne pêche. Alors vous comprenez qu'il n'y a pas moyen, comparant Danton à Robespierre, d'oublier qu'avant tout, la révolution pour Danton est une manière de se pousser.
Néanmoins, Danton a été l'homme de la défense nationale. C'était lui qui disait de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace.
Eh bien oui, c'est évidemment ça qui est resté de lui. Il faudrait encore regarder de près. Alors je vais vous dire comment je vois les choses. À quel moment a-t-il parlé de l'audace? Eh bien c'est en septembre 92. Septembre 92, il est mis de la justice, le dissous vient de se produire. Vous savez que le dissous, c'est un fameux tumulte, on ne se rend pas compte assez. Puis il y avait les massacres de septembre, début de septembre. Et il y a eu une épouvantable, énorme agitation dans Paris. Danton est un gars qui se méfie de cette petite plèbe qu'il a contribué à soulever, et il a horriblement peur qu'on en arrive à une révolution sociale où lui-même serait assez compromis. J'ai oublié de vous dire qu'il avait déjà une bien belle propriété à côté de Paris, il venait de son premier mariage avec la fille d'un casquier, on parlait de la casquière, c'était la Sèvre qu'il était installé, et il avait peur, je crois, il avait profondément peur d'une subversion sociale. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, à ce moment-là, les Prussiens avançaient, hein, le corps expéditionnaire de Branchy, vous savez. Alors quand il dit audace, toujours de l'audace, encore de l'audace, ça veut dire volontaire, engagez-vous. Et dans sa pensée, ces volontaires qui vont partir pour la frontière, ce sera autant de moindres révolutionnaires à Paris. Hein. C'est des gars dangereux, c'est de la petite plèbe, la tête crasseuse, c'est des, si vous voulez même quoi, les sans-culottes, et bien ils voulaient dégorger Paris. Hein. Avant tout, ils voulaient faire une épuration normale, par le patriotisme, quoi, afin que Paris ne soit pas encombré de gens qui lui paraissent horriblement dangereux. Premier point. Et deuxième point, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour ce combat, pour Valmy, hein? Mais il faut savoir que Valmy, je suis très étonné qu'un homme comme De Gaulle, par exemple, dans son livre sur la France et son armée, parle d'un triomphe de la manœuvre à Valmy. Il n'y a pas eu de manœuvre. C'est pas moi qui invente de dire qu'il n'y a pas eu de bataille de Valmy. Vous savez bien, il y avait les Prussiens d'un côté et les Français de l'autre. On a échangé des coups de feu et surtout des coups de canon. Il n'y a jamais eu de corps à corps, jamais eu de mouvement. Alors on raconte l'histoire que les Français ont mis au bout de leur baïonnette leur chapeau en faisant vivre la nation et que ça a suffi aux Prussiens pour perdre la tête et pour s'en aller. Il est à peu près certain aujourd'hui qu'il y a eu un arrangement entre Danton et Brunswick. Brunswick va faire tourner à ses troupes, mais il va faire repartir, sous prétexte d'une dysenterie, qui je crois était assez grande dans les grandes armées prussiennes, enfin il ne suffisait pas de la dysenterie pour que brusquement les Prussiens, évacuent le nord-est de la France. Tout ça avait été combiné par Danton, parce qu'il savait parfaitement que même avec les volontaires qui n'étaient pas encadrés, il n'y avait pas moyen de remporter un succès militaire. Alors il prenait l'attitude du grand patriote et du chef de combat, alors qu'en réalité, en douce, négocier pour qu'il n'y ait pas de guerre réelle. Voilà ce qu'il faut savoir. Alors il y a une mise en scène patriotique de Danton que l'histoire vraie est obligée de contredire et de renverser.
Mais dans les faits, en ce qui concerne plutôt la politique intérieure, alors, après Valmy, lorsque Robespierre, à partir de juillet 93, est au pouvoir, Danton a-t-il ou non travaillé contre lui?
Vous me posez une très bonne question. D'abord, il faut savoir comment les choses s'étaient passées. Hein. Lorsque la situation intérieure devenait très dramatique, c'est-à-dire en avril 93, après la trahison du Dumouriez, Danton avait fait créer, vous le savez bien, le premier comité de salut public, dont il était membre. La situation devenait de plus en plus dramatique, il y avait les Girondins qui, avec les royalistes, avaient mis en insurrection 60 départements sur 90. Il y avait une agitation affreuse du côté de l'Ouest, enfin la Vendée. On avait envoyé là des soldats qui n'étaient pas des soldats, qui étaient des volontaires à 500 livres, ça disait qu'ils étaient bien payés pour aller se battre et qu'ils ne se battaient pas. Si bien que le 10 juillet 93, lorsqu'il s'agissait de renouveler, parce qu'il était renouvelé tous les mois, le comité de salut public, Danton s'écarte. Hein. Il s'écarte pour une raison amusante, et qui réussit auprès de ses camarades. Il a écouté, je viens de me remarier, c'est vrai, j'étais marié en juin. Elle a 15 ans et demi, ma petite femme, alors il faut que je lui apprenne beaucoup de choses, alors donnez-moi une petite tranquillité, quoi, pour ma lune de noces et pour ma lune de miel. Et bien les gens acceptent. En réalité, ils décident. Hein. La situation intérieure est tellement grave qu'il ne veut plus être mouillé là-dedans. Et il dit lui-même, mais il y a quelqu'un qui peut me remplacer, c'est Robespierre. Pourquoi? Parce qu'il le jette à un moment où la situation est affreuse. Or, Robespierre va redresser la situation. Alors, vous pensez bien que Danton n'a qu'une idée, c'est de le faire tomber. Alors, je vais vous raconter trois trucs qu'il a fait. Je m'excuse, je vais être là 5 minutes de la nuit, mais enfin, il faut que je vous raconte ça. Hein. Les trois trucs, ça a été d'abord ceci. Lorsqu'est arrivée à Paris la nouvelle de ce qui se passait en Provence, où la flotte française, commandée par deux amiraux, qui s'appelait Chose Gros, l'autre qui s'appelait Prodov, avait trahi à son tour, comme Dumouriez et comme Lafayette. Lorsque, grâce à cette trahison des amiraux, des Anglais avaient débarqué en Provence, la nouvelle vient à Paris le 1er septembre 1993, grosse émotion. Bon, on dit, il y a déjà les autres Prussiens qui sont au nord de la France, il y a la Vendée et la Normandie qui est soulevée, voilà maintenant qu'au sud, en Provence, les Anglais sont là. Alors Danton réunit tout ce qu'il peut de plèbes, de foule, sur la place de Grève, et il dit, je demande une troisième révolution et je demande aussi une fête par jour. Qu'est-ce qui va faire réfléchir un peu? Qu'est-ce que ça peut signifier, une troisième révolution? étant donné qu'en 89, il y a eu une première révolution qui s'appellerait plutôt une réforme, c'est-à-dire la bourgeoisie qui prenait la place de l'aristocratie, puis il y a eu le dissoute, la véritable révolution, avec République et avec suffrage universel. Troisième révolution, en septembre 93, ça n'avait aucun sens, sinon anarchie. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, au trouble égale bonne pêche. C'est une situation extrêmement dramatique pour Robespierre, qui voit une partie de la foule contre lui. Mais il y a un type qui avait sauvé la mise, c'est Chaumette. Vous savez, Chaumette qui était l'adjoint d'Hébert à l'hôtel de ville, et qui l'a expliqué aux gens, ne faites pas ça. La convention a une peur horrible, et Robespierre va profiter de cette peur des conventionnels pour faire voter le maximum, c'est-à-dire le maximum des denrées, dont ne voulait pas la grande majorité de la convention. Premier point, Danton a raté. Deuxième coup, et c'est Soboul qui nous l'a révélé. Vous savez, Soboul est un admirable connaisseur de la Révolution et qui a fait, dans un énorme bouquin d'abord, sa thèse de 1200 pages sur les sans-culottes parisiens de l'an 2, et puis il a fait un petit bouquin excellent qui s'appelle La Première République. Et bien, Soboul nous a révélé que ce mouvement qu'on a appelé la déchristianisation, et que j'avais cru à un moment venir des profondeurs du peuple par une espèce de haine trop explicable du comportement du clergé, c'est Soboul qui nous a révélé, lui qui est un incroyant et qui est un marxiste, que c'est une invention de Danton. Danton savait que Robespierre était eudéiste, il disait qu'il vivait dans une jésuitière, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Alors il avait inventé, d'essayer de susciter un mouvement, on en trouve toujours quand on paye les gens, pour casser des statues, pour fermer des églises, et pour faire de la déchristianisation. Et il s'était dit, je vais venir mon Robespierre, Robespierre ne voudra pas, il va s'opposer à cette politique, et je pourrais le dénoncer comme un curé, comme un réactionnaire. Et bien de nouveau, ça ne va pas marcher, parce que Danton ne va obtenir que très peu de succès du côté de cette déchristianisation. Soboul a été regardé tous les documents parisiens, vous savez, les procès-verbaux de ces réunions qui se tenaient, les militants, quoi, il y en avait tout le temps. Pas une fois, dit Soboul, pas une fois, aucune fois, jamais, je l'ai trouvé, dans un procès-verbal de réunion révolutionnaire, un désir de déchristianisation profonde. Ça ne marche pas, donc on s'aperçoit que ça ne rend pas, qu'une partie de la convention ne le suit pas, et c'est lui-même qui va dire j'en ai assez qu'une mascarade anti-religieuse. Parce que là encore, ça a loupé. Mais le troisième temps, le plus grave, ce qu'il a fait contre Robespierre, troisième temps, c'est ceci, c'est quand, au début de décembre 1993, il a lancé ce pauvre petit Camille Desmoulins dans une opération destructive. Le même Danton, vous m'entendez bien, le même Danton, qui avait dit je demande une dette par jour, se frappe la poitrine en disant maintenant je demande l'économie du sang des hommes. Et il lance le vieux cordelier avec le petit Camille Desmoulins en disant il faut ouvrir les prisons. Il y a beaucoup de types en prison qui ne méritent pas de l'être. Ouvrir les prisons, vous comprenez bien qu'en effet Robespierre lui-même avait dit au moment de la cueillette des suspects, on a pris du trop. Deux fois, Robespierre avait déjà demandé que l'on révisât la question des suspects et qu'on libéra ceux qui n'étaient pas réellement des suspects. Mais entre ce triage des emprisonnés et l'ouverture totale des prisons que demandait Danton, il y avait une distance énorme, quoi, à savoir qu'on allait rejeter par la circulation des quantités d'argent royaliste. C'était donc la destruction de la Révolution que Danton demandait, et il savait très bien ce qu'il faisait. Là, vous voyez qu'en trois temps, Danton a essayé de casser les reins à Robespierre et en fait à la République.
Dans la comparaison qu'on établit entre Danton et Robespierre, il semble plus important, non pas de compter les têtes et de savoir lequel a commis le plus d'horreur, mais de savoir quel but ils servaient lorsqu'ils étaient amenés à commettre ces horreurs. Et finalement, on peut dire que Danton en a peut-être commis beaucoup moins, mais pour un but beaucoup moins grand, beaucoup moins important, puisque c'était lui-même qu'il servait, tandis que Robespierre servait la Révolution. Il reste quand même que le procès de Danton a été affreux, et qu'il n'a pas pu prendre la parole, même si, au bout du compte, cela n'aurait rien changé, à l'issue de ce qu'on hésite quand même à appeler un procès.
Non, ce n'était pas un procès bien ordonné. Et là, je ne peux pas défendre Robespierre, parce que Robespierre laissait faire des choses qui étaient, en effet, extrêmement pénibles et cruelles. Mais je voudrais appeler votre attention sur un fait, à savoir qui a travaillé, qui a conçu, qui a créé le tribunal révolutionnaire. C'est Danton. Alors que parfois, j'avais cru autrefois, avant d'avoir étudié les choses de près, que c'était le terrible Robespierre qui a voulu faire tomber le plus rapidement possible des têtes pour la terreur. Et bien, la terreur a commencé grâce à Danton. Pourquoi? Parce que Danton est parti lié, j'ai fait allusion tout à l'heure, avec Dumouriez. Parce que le comportement de Dumouriez devenait de plus en plus suspect. Parce que Danton avait besoin, comme on dirait aujourd'hui, de se dénouiller, quoi, de se blanchir après s'être aussi tellement compromis que Dumouriez. Alors c'est lui qui a fait créer ce tribunal révolutionnaire, qui donne l'impression qu'il est révolutionnaire intraitable, pour lequel les grandes questions étaient capitales. Bon. D'autre part, à propos du procès et de l'arrestation de Danton, je dois vous dire ceci, que Robespierre n'est pas un homme qui se complaît dans ça. Robespierre est quelqu'un qui a beaucoup de sang sur les mains, c'est vrai, mais qui a cru devoir le faire. Si j'avais à parler de Lénine, je vous dirais qu'il y a un rapprochement assez sérieux entre Robespierre et Lénine à cet égard. Bon, quand il a décidé de casser les reins, cette fois, et même la tête, couper la tête à Danton, c'est après déjà avoir essayé de l'intimider, quand il avait fait arrêter Fabre des Glantines. C'était un avertissement. Danton se réveille en Hollande et il continue. Danton va se tenir noblement à son procès, pousser des rugissements en disant « Vous ne m'écoutez pas ce qui était vrai ». Se tiendra bien encore, je le crois, c'est vrai, au moment où on lui coupera la tête. Mais il faut savoir que dans les papiers de Robespierre, c'est Massias qui l'a trouvé, on a découvert ce petit bout de papier qui concernait une visite que lui avait fait Danton, lorsque Danton se sentait menacé. Une visite dont Robespierre disait, je me souviens encore, des efforts ridicules qu'il a fait pour pleurer devant moi. Voilà un Danton différent de celui que nous voyons d'habitude. Danton jovial, plein de faconde, irritable, violent, pas cette facile à intimider. Et qui tout à coup, devant Robespierre, deviendrait cette espèce d'agneau brillant, rampant, enfin, qui fait des efforts pour pleurer, pour tenter d'impressionner Robespierre. Ceci est un très nouveau, il faut ajouter, personnage. Maintenant, vous savez bien que, sur l'échafaud même, il a dit au bourreau, lorsque ma tête sera coupée, vous montrerez ma gueule au peuple, alors vous la peine. Il y a du théâtre, si vous voulez, mais en même temps, il y a du courage, la noblesse. Noblesse, c'est un mot de trop. Je dirais pas noblesse. Et pour terminer, je voudrais vous indiquer ce qui, pour moi, c'est une opposition fondamentale entre Robespierre et Danton et pourquoi je préfère passionnément Robespierre. Commençant, je disais tout à l'heure que c'était un homme fasciné par Jean-Jacques. Voyez-vous, je voudrais faire un rapprochement ici entre les gens dont les noms vous paraîtront surprenants, mis côte à côte. Jean-Jacques Rousseau, d'une part, hein, Robespierre et Jaurès. On ne comprend pas, à mon sens, on ne comprend pas la politique même d'un Jaurès ou la politique de Robespierre si on ne voit pas leur arrière-plan. J'ai fait un bouquin qui s'appelait « L'arrière-pensée de Jaurès » parce que Jaurès a expliqué lui-même, au chapitre 10 de l'Armée Nouvelle, dépassant le plan et de l'Armée Nouvelle et du socialisme et parlant philosophie, il a dit ceci. « J'ai sur ce monde si cruellement ambigu une arrière-pensée sans laquelle la vie de l'esprit me paraîtrait à peine tolérable à la race humaine. » Je répète parce qu'elle est intéressante la phrase. Hein. « Sur ce monde si cruellement ambigu une arrière-pensée sans laquelle la vie de l'esprit me paraîtrait à peine tolérable à la race humaine. » Ben, l'arrière-pensée de Jaurès, c'est l'arrière-pensée de Robespierre, c'est l'arrière-pensée de Jean-Jacques Rousseau. À savoir qu'il ne suffit pas de réforme de structure, qu'il ne suffit pas d'établir la République, qu'il ne suffit pas de faire que les écrasés ne soient plus écrasés et que les humiliés ne soient plus humiliés, mais qu'il faut donner à l'homme un nouveau regard sur la vie. On ne comprend pas, j'assure, on ne comprend pas le contrat social si on n'a pas eu la protection de foi des vicaires savoyards. On ne comprend pas Jaurès si on ne sait pas que c'est un philosophe qui avait dit certaines choses dans son livre qui s'appelle, comme vous le savez, de la réalité du monde sensible. Et on ne comprend pas Robespierre si on ne se reporte pas à un discours capital de lui qui s'appelle « Principe du gouvernement républicain » dans lequel il parle de la vertu, je sais bien, et tout à l'heure vous m'entendez vous-même, ce mot de vertu est un mot qui est devenu aujourd'hui ridicule. Mais pour Robespierre, le mot de vertu avait une signification bien différente de celle que nous lui donnons aujourd'hui. Je voudrais vous apporter, de mémoire, deux très courtes citations de Robespierre qui sont dans ce discours sur les principes du gouvernement républicain. Il allait jusqu'à dire avec une candeur que j'appellerais pathétique. Ce que je veux, dit-il, c'est une organisation de la cité où toutes les âmes s'agrandiront. Ouais, il a dit ça. Il a dit encore, je voudrais une organisation politique et sociale qui permette à l'homme d'accomplir sa destination. Et bien, vous savez, entre les mots que je viens de prononcer et les mots de Danton, entre accomplir sa destination et cet agrandissement des âmes, et là, bassesse Danton, vous avouerez qu'il y a eu un abîme. Dans l'ordre de l'authentique grandeur, de la hauteur de vue, en fait, de la propreté, de la pureté morale. Entre Danton et Robespierre, la distance était des distances d'années-lumière.
Daniel Villès a écrit récemment « Guillemin est un iconoclaste de profession et d'obsession ». C'était à propos de Tolstoï. Qu'en est-il de votre inimitié à l'égard de Tolstoï ?
Mais il s'est trompé, Daniel Villès. Hein. C'est un Belge, et je crois qu'en Belgique, on a produit 13 émissions de moi sur Tolstoï. S'il nous avait entendu, il s'aurait rendu compte que je ne suis certainement pas un ennemi Tolstoï. Je les connais, les ennemis Tolstoï. Bagagide, au premier rang, qui l'appelle un imposteur, qui dit c'est un hypocrite, jamais il n'a été sincère. Et André Suarez, qui avait été d'abord un ami Tolstoï, et qui, en 1907, dans un des cahiers de la quinzaine de pays, a écrit des choses très basses sur Tolstoï. Il y a Stefan Zweig, et puis il y a Jean Cassou, je ne sais pourquoi, il est déchaîné. Et puis, il y a même Troya, c'est un énorme bouquin sur Tolstoï, mais véritablement, lorsqu'il parle de la pensée de Tolstoï, il déraille, ou plus exactement, il le déteste, et il le dit. Je suis si peu un ami de Tolstoï qu'en réalité, dans mon cabinet de travail, j'ai plusieurs visages. Hein. J'ai Victor Hugo, j'ai Tolstoï, et j'ai Claudel. Tolstoï, c'était à propos de l'ouvrage de Tatiana, que Daniel Gillet avait écrit ça. Tatiana Tolstoï, qui l'a filmé, avait laissé un certain nombre de documents inédits. Il y en avait deux qui avaient déjà paru en russe. Et ce que M. Daniel Gillet a apporté d'absolument neuf, ce sont des souvenirs d'enfance de Tatiana. qui sont intéressants sur la vie russe, sur elle-même, Tatiana, mais sur Tolstoï lui-même, peu de choses. En revanche, les deux autres textes qui sont contenus dans l'ouvrage de Tatiana, c'est des souvenirs épars, des espèces d'éclairs de mémoire qu'elle a sur son père, qui sont très intéressants, et surtout un témoignage final sur le drame entre son père et sa mère. Et là, dans ce témoignage final, il est évident que cette petite n'ose pas dire toute la vérité. Elle aimait sa mère, et je ne peux pas lui en vouloir. Cette mère qui avait été si féroce à la fin de l'Union de valeurs contre son père. Alors elle a tenu. Je pense qu'elle cache, et je pense aussi qu'elle ne sait pas tout. Mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'elle n'est pas allée en profondeur, et qu'elle n'a pas vu le drame profond, la réalité du drame qui s'est développé entre cet homme et cette femme. Et c'est la réalité du drame que je voudrais essayer de pénétrer avec vous.
Alors, puisqu'il y a drame dans la vie de Tolstoï, et que finalement, d'après vous, le fond du problème n'a jamais été abordé, quel est le fond du problème?
Eh bien, vous me posez exactement la question que je souhaitais. Voyez-vous, Tolstoï est un homme curieux, en ce sens que la métaphysique l'empêchait de dormir. Et je ne crois pas que ça soit banal. Pensez donc que cet homme, quand il s'approchait de ses 50 ans, avait tout, on peut dire qu'il avait tout. Hein. Il avait une femme désirable et qui continue à désirer et qu'il l'aimait. Il avait des enfants riches. Il était le plus grand romancier russe. Il avait une fortune considérable, enfin c'est le type qui était fait pour être heureux. Et il n'était pas heureux. Pourquoi il n'était pas heureux? Parce que je viens de vous dire, les problèmes métaphysiques étaient pour lui quelque chose de concret, d'important. Au point que, ce qu'il nous raconte, et il n'a jamais menti sur des choses comme celle-là, vers 50 ans, justement, entre 49 et 50 ans, il en était arrivé au point de désirer le suicide, vous m'attendez bien, le suicide, cet homme comblé, parce qu'il n'arrivait pas à trouver la réponse à une question qui lui paraissait capitale, enfin, pourquoi vivons-nous, et surtout pourquoi la mort? La mort lui paraissait non seulement une violence indue, comme dit Simone de Beauvoir, mais un scandale, quelque chose d'inadmissible. C'était trop bête, ça lui paraissait trop bête. Là, il s'était posé depuis des années cette question, de pourquoi vivons-nous, est-ce que Dieu existe, est-ce que la vie a un sens? Et il raconte dans un bouquin, il dit, cette question, perpétuellement sans réponse, tombait devant moi comme une tache d'encre sur mon papier. Cette tache d'encre s'élargissait, finissait par faire une espèce de trou, d'abîme dans lequel j'avais envie de me jeter. Me jeter pour savoir si j'avais raison de me poser la question ou bien s'il n'y avait rien. Alors il nous raconte que c'est vrai, vous savez, quand il allait se promener autour de Yasna et Apolliana, qui était sa maison, qu'il allait chasser, et bien il essayait de ne plus prendre son fusil, parce qu'il dit, j'avais trop souvent la tentation de mettre le canon de mon fusil dans ma bouche et d'appuyer sur la gâchette. Il avait fait disparaître de son cabinet de travail des cordes qui étaient là, je ne sais pas pourquoi, en disant que c'était une sollicitation permanente pour me pendre. Et bien voilà cet homme qui était arrivé au bord du suicide parce qu'il ne trouvait pas une réponse à une fameuse question qui le torturait, avait fini par trouver la réponse. Vous découvrirez ça dans le 7e livre, le 7e chapitre, je crois, d'Anna Karenine. Le personnage central, enfin il y a deux personnages masculins, vous savez bien, mais le personnage qui s'appelle Lévine, tout le monde sait aujourd'hui que c'était lui, Léon Tolstoï, parce que nous disons Léon Tolstoï, et en russe parisien, ça se Lev, alors il n'a qu'à ajouter in, Lévine, pour faire Léon Tolstoï. Bon. Lévine est quelqu'un dont il nous a raconté ceci dans Anna Karenine, que ce Lévine se posait des questions, et puis qu'un jour, comme ça en 78, c'était l'année de ses 50 ans, il est né en 28, alors qu'on se livrait dans la ferme, dans la propriété, un travail logistique que j'ai oublié, je crois, on battait le blé. Le propriétaire, l'usine, a entendu un contremaître, enfin, pas un type qui avait une puissance quelconque sur les paysans, qui parlait tout seul. Il était à côté de lui, le baril, le maître, le propriétaire, et puis il a entendu Fiodor qui disait comme ça à mi-voix, comme se parlant à lui-même, une chose fort simple, mais inattendue tout de même. Il disait, il y a des gens qui pensent à leur ventre, et d'autres qui pensent à leur âme et à Dieu. Évidemment, ça tombait un peu digne, cette phrase. Et Lévine, qui était à côté, c'est-à-dire Tolstoï, a été bouleversé. Il a reçu une espèce de commotion, et il raconte, et il ne ment pas, qu'il est parti à grands pas dans les champs, ne sachant pas où il allait. Il dit des sanglots m'étouffaient. Des larmes de reconnaissance, de reconnaissance, hein, coulaient sur mon visage, et je répétais machinalement, j'ai compris, qu'est-ce qu'il avait compris. Mais il faut lire les armées intimes d'une part, et il faut lire aussi ce drôle de bouquin, mal traduit du reste, qu'il a intitulé de la religion. Il croyait avoir compris ceci, que ce mot Dieu qui lui paraissait un mot vide de sens, une espèce de vocable indéterminé, devenait pour lui tout à coup vivant, à l'état d'explosion et de source. Il disait, qu'importe que nous puissions ni le définir ni le cerner, maintenant je suis entré dans une connaissance par contact. C'est pas vrai de dire que nous appartenons à Dieu comme un despote extérieur. Nous sommes abouchés à lui, nous vivons de lui, tout vit par son souffle. Et ce par quoi je dis « je », n'est pas autre chose que sa propre palpitation. Pour être véritablement méditateur, pour être véritablement, j'avais compris que nous n'avions qu'à dire oui à une proposition permanente qui nous était faite, et que le moi, que le je, était insubmersible, et que la mort n'existait pas, et que la mort était en sphère d'existence. À ce moment-là, Tolstoï est entré dans une paix intérieure qui ne l'a plus jamais quitté. Et c'est ce qui m'exaspère quand il arrête, par exemple, qui dit, Tolstoï est entré dans une espèce de désespoir. Il en est venu à dire que ce qui est mieux pour l'homme, c'est de n'être pas. Alors que si vous lisez la correspondance et les journaux, vous apercevez qu'à partir de cette date jusqu'à sa mort en 1910, c'est ce que je viens de vous raconter, de 1878, cet homme était dans une plénitude de joie intérieure. Et tellement peu, c'est pareil de la réalité, que dans une date de 1979, un camarade qui s'appelait Seth, il lui dit, c'est l'été, le merveilleux été, je suis fou de la vie. Parce que la vie avait pour lui maintenant pris un sens radieux. Alors voyez, cette paix qui était entrée dans Tolstoï, on se demande pourquoi elle va créer autour de lui tellement de malheur.
Oui, le problème de Tolstoï est d'ordre religieux, mais comment se fait-il, puisqu'il avait atteint une certaine paix intérieure, qu'il ait connu les tragédies qu'il a connues dans son existence?
Là, je vais expliquer. C'est là où Tatiana frôle la question sans la pénétrer. Le drame, c'est de Stéphania, sa femme, qui l'aimait profondément, Tolstoï, vraiment beaucoup, hein, il l'a désiré très longtemps, jusqu'à 70 ans. Et il aurait tellement voulu que Sonia le suive dans cette découverte intérieure qu'il avait faite. Or, Sonia, c'était une petite orthodoxe, elle allait par vitesse acquise, quoi, elle allait la mettre par ce qu'elle fait. Mais cette rivalité religieuse pour Tolstoï avait pris maintenant une espèce de vitalité fondamentale, c'était quelque chose aussi réel que l'uranium et les galaxies. Pour elle, c'était l'utopie, c'était de la phrase. Alors, il l'explique, car c'est expliqué, qui a une implication immédiate de la foi qui est entrée en lui. Et là, il y a une phrase de lui qui m'a bouleversé. Oui, qui m'a remué, c'est vrai. C'est quand il essaye d'expliquer à Sonia la fameuse parabole du Samaritain. Tout le monde connaît, quoi. Samaritain, vous savez bien, c'est le type qui va s'occuper d'un blessé qui est victime d'un accident là sur la route entre Jérusalem et Jéricho. En descendant de Jérusalem et Jéricho, et je l'assure, en effet, que ça descend, puisqu'on descend, vous savez bien, tout du niveau de la mer. L'avant-texte évangélique, il nous a dit qu'il y a un prêtre qui passait là, il s'en foutait. Il y a un lévite qui passait là, ils ont un séminariste, il s'en fout aussi. Puis il faut que ce soit un samaritain, je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'était des samaritains pour les juifs, c'était le boss, quoi, comment dire à nous, c'était le communiste, c'était le type infréquentable, il fallait que ce soit un samaritain qui s'occupe du blessé. Bon, mais Tolstoï dit dans le texte, le type qui l'a blessé, il n'est pas victime d'un accident de la route, il a été attaqué par des bandits. Alors Tolstoï dit, ben, ça veut dire, il ne faut pas simplement soigner ceux qui sont des victimes, mais il faut empêcher que les bandits haïssent. Et qui sont les bandits? Les bandits, c'est les exploiteurs, dit Tolstoï. C'est moi, c'est nous, il dit à Sonia, c'est nous. Parce qu'on a une énorme propriété qui nous rapporte de l'argent et on fait travailler les gens pour nous. Alors écoute, Sonia, disait-il, on ne peut plus continuer comme ça, hein. Tu vois, je suis fort, je suis un petit pigard, 50 ans, on a déjà des grands-fils. Ben, on va garder 50 hectares, ça nous 600, 5 ans, c'est bien beaucoup. Et puis on vivra d'un autre travail. Alors Sonia, vous savez, mais elle ouvre de grands yeux, elle n'y comprend rien. Elle dit, mais t'es devenu fou, mon vieux, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu mets en question notre bonheur? Alors tu vas tout saccager. Puis il revient tout le temps, il dit, mais non, tu comprends bien, on ne peut pas faire très mal ce que l'on fait. Tu es chrétienne, hein, tu vas à la messe, Sonia. Moi je ne vais peut-être pas, mais je voudrais y aller, je vais y aller même. Mais ça ne suffit pas d'aller à la messe, il suffit de prendre au sérieux ce qui nous est dit dans le christianisme. Notre morceau de pain est à nous, que si chacun a le sien. Alors, tu comprends bien qu'il faut changer de vie. Eh bien, il ne comprendra jamais. Jamais. Et ça deviendra une tragédie entre eux, parce que lui, il a pris tout à fait au sérieux. Et qu'elle essaie de leur tenir, de freiner. Il y a un moment où Tolstoï dit, mais j'ai gagné beaucoup d'argent avec mes livres. Je voudrais pas que mes fils, que toi-même, je voudrais pas que notre postérité gagne de l'argent avec mes droits d'auteur. Parce que j'ai essayé de faire des livres qui signifient quelque chose. Ah ben, je veux bien, tu vois. Tout ce que j'ai écrit avant 78, c'était de la littérature, hein. Alors, j'avais bien un arrière-plan, mais bon, d'accord, alors droits d'auteur. La période 78, hein. Plus de droits d'auteur. Parce que tout ce que j'ai écrit, c'est en vue d'un certain travail. Elle hausse les épaules, elle dit, mais ça rapporte beaucoup, et lui, lève les yeux aussi, elle dit, mais justement, c'est, je ne veux pas que ça rapporte, tu comprendras pas. Alors on va voir des choses épouvantables dans cette famille, et Tatiana n'y a fait qu'une très rapide allusion. Les gosses, les enfants, sont tous, ou presque tous, contre le père. Il y en aura même un, l'aîné, qui s'appelle Léon, comme le père. Il va l'appeler salaud un jour, il va lui dire ça en pleine figure, salaud. Il faut savoir du reste, la réaction de Tolstoï, il la note dans un journal, et il dit, Léon m'a appelé salaud. Tu savais, comme bien des fois j'ai été en effet un salaud sans lui dire. Alors j'ai rien à dire, mais dans ce cas-là, cette fois, il m'a appelé salaud pour quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas légitime. seul fait se débat à la fois contre sa femme et contre ses fils, parce qu'il est tout seul. Cette famille qui semble lui la famille aux 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants, seul, ben cette famille est coupée en deux. Et à l'un côté, le vieux Lev Tolstoï, qui vieillit, qui va s'avancer vers ses 70, vers ses 80 ans, puis de l'autre côté, le petit groupe familial, et il y a cette malheureuse Tatiana entre les deux, là, qui ne sait pas exactement pourquoi ils se battent tellement, pourquoi ça va si mal. Et il y a un Lev Tolstoï qui dit, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il dit, mais si je reste avec eux, je suis en train de me renier. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus auprès de lui, qui arrivaient à cause de ses livres, pour voir ce fameux Tolstoï. Alors il s'amenait à travers l'Europe, hein. Puis quand ils arrivaient à Yasna et à Pauliana, on leur disait, c'est là-bas, chez Tolstoï. Là-bas, c'est une grande maison. Alors Tolstoï disait, mais je sais qu'il y a des gens qui sont repartis. En disant, comment? Il vit comme ça, comme un châtelain, il continue à vivre comme un barine, il écrit ce qu'il écrit. Faut que je m'en aille, absolument. Et dans une note de son journal, il dit, ceci, je détruis, par ma façon de vivre, ce pourquoi, je dis. Pourquoi il s'en va pas? Alors laissez-moi vous expliquer que cela est tout à fait nouveau, enfant. Tolstoï, qui s'interpelle quelquefois souvent dans ce journal intime, qui s'appelle lui-même, et Léon, hein, il dit, Léon, t'es très fort, hein, pour parler de la charité, pour parler du prochain. Ah, il faut que tu te plaies du prochain. Mais qui c'est ton prochain le plus proche? Mais c'est Sonia. Sonia, elle est devenue terrible pour toi. Figurez-vous, en effet, ça, je fais une parenthèse, et ta femme, elle ne savait pas, que lorsqu'il n'a plus dû coucher avec sa femme, physiquement, il ne pouvait plus, quoi. Ben, elle était furieuse, il a pourtant passé 70 ans, et figurez-vous qu'elle l'a attaqué en lui disant, tu couches avec Tcherskov. T'es devenu un allergique. Évidemment, ta femme n'avait pas su. Vous voyez le coup que ça pouvait faire à Tolstoï, sa femme, parce qu'il ne pouvait plus la baiser, considérait que c'était devenu un averti, un type monstrueux. Bon, je ferme ma parenthèse, et je reviens. Tolstoï se dit, mon prochain, hein, dont je parle tout le temps, mais c'est Sonia, mon prochain, il me rend la vie impossible, mais j'ai promis de m'occuper d'elle. J'ai promis de vendre Dieu, puis maintenant c'est un mot qui est important pour lui, j'ai promis de vendre Dieu, m'occuper d'elle. Donc c'est mon prochain le plus proche. Alors si je m'en vais, elle va être malheureuse, elle m'a déjà annoncé, je me tuerai si t'en vas. Pour qu'elle se dira, parce qu'elle dit, l'opinion publique sera contre moi. On dira, c'est une conte Tolstoï. Abandonner sa femme, c'est qu'il avait quelque chose à lui reprocher. Je veux pas que tu me quittes. Je me tuerai si tu me quittes parce qu'elle retombera contre moi. Il est pris dans une teinte, ce type, hein. Il se dit, mais je trahis tout ce que j'aime en vivant comme je le fais. Et si je m'en vais, je trahis mon christianisme même.
Après cette lutte acharnée entre son désir de rester et en même temps le désir de ne pas se renier, au terme de cette lutte, il est parti quand même.
Ben vous avez raison. Hein. C'est pas, je crois, le 28 octobre 1910. Il avait déjà eu 83 ans, hein, 82 ans. Et il peut finir le coup. Il y avait Tcherskov, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui en effet faisait une pesée permanente sur lui en disant, il faut vous en aller. Puis il y avait Tolstoï qui disait, je ne peux pas, à cause de Sonia, je ne peux pas. Et le jour où il va partir, il faut savoir dans quelles conditions. Il tenait depuis longtemps un journal intime, Sonia en tenait un URS aussi. Et elle voulait absolument savoir ce qu'il y avait dans ce journal intime. Alors elle lui avait dérobé. Il avait décidé de faire un autre petit journal intime qui s'appelait Journal pour moi seul. C'était sur des tout petits bouts de papier qu'il avait cousus ensemble, ça avait je crois même 7 à 8 cm, pas plus, de hauteur. Et il mettait ça dans la journée dans sa botte et la nuit sous son oreiller. Et puis il s'est aperçu que le premier de ses cahiers, Sonia était arrivé à le trouver, il avait disparu. Ça le bouleverse, il dit, c'est pas possible. Je peux plus avoir une vie intérieure, ma femme me surveille pour tout. Alors dans cette fameuse nuit du 27 au 28 octobre 1910, il a entendu que dans son cabinet de travail, qui séparait sa propre chambre à coucher de la chambre à coucher de sa femme, il a entendu des papiers qu'on remuait. Il y avait une lumière qui passait sur la porte. Il dit, c'est Sonia, 3h du matin. C'est Sonia qui est en train de gratter dans mes papiers pour trouver et mon journal intime et mon testament. Parce que la grande question pour Sonia, c'était la question du testament, à cause des fameux droits d'auteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle se dit, pourvu que Léon n'ait pas eu l'idée dans son testament d'exiger que ses droits d'auteur ne viennent plus à la famille, et qu'il n'y ait plus de droits d'auteur et que les livres soient vendus au prix coûtant. Alors il se lève, il est assis dans son lit, hein. Elle a entendu que le lit craquait et ouvre la porte. Elle lui jure pas, car il est un peu intimidé, hein, il est toujours timide devant sa femme, mais il dit, non, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillé. Mais dors bien, mon vieux, il dort, il faut bon. Elle se recouche, elle s'en va, la lumière disparaît. Alors il dit, elle n'a pas osé parce qu'elle se demande si je ne vais pas rester éveillé, si je ne vais pas la guetter. C'est à ce moment-là, vers 3h30, 4h du matin, qu'il prend sa décision. Je ne peux plus, je m'en vais. Et il a honte. Il faut savoir qu'il a honte. Il va aller trouver sa fille Sacha, la dernière. Il a les confiances. Il lui dit, écoute, je vais partir, je suis parti de ce que je fais. Je ne peux plus, tu comprends, je ne peux plus. Et puis il écrit une petite lettre à sa femme qu'elle lira en se réveillant, elle se lève vers 11h du matin, et nous sommes 4h du matin. Cette lettre où il lui demande pardon. Il dit, je sais bien que c'est mal ce que je fais, mais je te demande pardon, je ne peux plus tenir. Alors le voilà qui s'en va. Et vous savez dans quelles conditions il va s'en aller. Il part avec son médecin, parce qu'il était déjà malade. Il va attendre un train, dans un froid glacial, avec un grand vent. La petite gare sous laquelle il prenait le train, c'est une gare de western, vous savez, c'est des plaques de bois, des rondins. Il n'y avait rien pour s'abriter, il faisait un très grand vent froid, octobre. Alors il s'en va, et il voudrait aller trouver sa sœur Marie, qui était veuve, dont ils ont été mariés, qui était religieuse. Il va aller voir sa sœur Marie. Il va lui demander si elle ne peut pas l'accepter, non pas lui, homme, dans sa communauté féminine, enfin, tout près. Elle lui dit, il la trouve en effet, elle lui dit, mais rappelle-toi, t'es excommunié. C'est vrai, il faut savoir ça. Tolstoï avait été excommunié en 1901, par le saint synode de toutes les Russies qui avait trouvé cette phrase formidable. Le comte Tolstoï, dans son orgueil satanique, s'est dressé contre le christianisme pour lui ôter sa substance. Alors que justement, ce que Tolstoï voulait faire, c'est de maintenir la substance du christianisme. Il lui dit, mais je ne pourrais pas rester là. Pas loin du couvent, dans l'aura du couvent, je pourrais faire des choses, moi, je suis fort encore, alors que le pauvre type, il avait une nuque toute petite. Et Sacha me dit, la nuque de papa était devenue mince comme celle d'un enfant avec des cheveux frisottés. Il dit, je pourrais faire des choses que vous ne pouvez pas faire, que les moines ne peuvent pas faire, c'est m'occuper du cochon, par exemple. Et il dit, non, il ne faut pas faire ça, ça fera scandale. Alors, c'est ce qui décide à ce moment-là de s'en aller, foutre le camp, réellement foutre le camp, c'est du moins possible, il va partir du côté du Caucase, où il était allé quand il était tout jeune. Il avait attrapé la crève, là, en attendant son train. Son docteur qui l'accompagne lui prend le pouls tout le temps. Il crache du sang, il tousse, il crache du sang. Si bien qu'il s'arrête dans cette petite gare de Astapovo. Et c'est là qu'il va mourir si misérablement.
Mais après son départ, que se passe-t-il chez lui dans cette grande propriété où il a laissé une femme qui ne comprend rien et des enfants divisés?
Et bien, lorsque Sonia s'est réveillée, je vous ai dit vers 11h, qu'elle a eu le petit billet de son mari, elle a annoncé qu'elle allait se tuer. Alors elle est partie à travers la propriété dans la direction d'un étang. C'est en profondeur du reste. On a couru derrière elle et on l'a sauvée tout de suite. Il y avait deux enfants qui étaient pour Tolstoï. Il y avait Tatiana et puis il y avait surtout Sacha. C'était la dernière fille, Alexandre, qui vit encore, je crois, qui vit aux États-Unis. Et à Sacha, il avait dit où il allait. C'est-à-dire qu'il lui avait dit, je vais chez ta tante, Marie. Mais elle est fidèle. Elle ne dit pas à sa mère ce qu'elle sait. Sa mère la tourmente en lui disant, mais dis-moi, est-ce que tu sais ce que ton père a dit? Elle, non, elle dit, non, je ne sais pas où il est, alors qu'elle le savait. Et puis c'est elle qui va faire passer, elle, Sacha, un petit billet à son père lorsqu'il est auprès de Marie pour lui dire, maman va finir par savoir, elle a deviné, elle a pensé, elle pense que tu es chez Marie, il faut t'en aller. C'est pour ça que Tolstoï est parti. Alors finalement, c'est un journaliste qui, ayant appris que le comte Tolstoï avait disparu de sa maison, s'était mis à sa recherche, et c'est lui qui va se permettre d'envoyer un télégramme à Yasnaya Polyana pour avertir Sonia pour dire votre mari est à Astapovo. Alors à ce moment-là, il loue un train spécial pour 500 roubles du reste. Elle se fait conduire à Astapovo, et elle essaye de le voir. Et il y a un barrage. C'est le docteur lui-même qui dit, madame, vous ne pouvez pas entrer, parce qu'il va être dans une telle agitation s'il vous voit, que vous risquez de le faire mourir tout de suite. Alors pendant 3-4 jours, elle va être là dans son train spécial, disant toujours au docteur, mais enfin, j'ai payé 500 roubles, lui dit madame, peut-être, oui. Et si je vous laisse entrer, vous allez être tué. Alors, il va accepter la présence de Sacha et la présence de Tatiana. Il va balbutier, vous savez, dans les derniers moments, il fait de l'oxygène, il sait toujours ce qu'il dit. La dernière parole, paraît-il, que Tatiana aurait relevée sur ses lèvres, c'est ceci, plus il y a de l'amour dans l'homme, plus l'homme existe. Je ne suis pas sûr, vous savez. Elle nous a peut-être arrangé un peu les choses, parce que je pense que le pauvre homme avait son esprit tout à fait embrumé. Tuerait-il que sa femme n'a pas effectivement pu le voir, et qu'il est mort, comme il le souhaitait, je pense, hors de sa présence.
Alors, au total, qui est pour vous Tolstoï, Rémy?
C'est un être double, vous savez, Tolstoï. C'est d'une part un très grand écrivain. C'est un homme qui avait un sentiment extraordinaire du malheur autour de lui. C'est un homme qui a regardé les moujiks avec un cœur neuf. Lui, c'était un bariste, un propriétaire, et puis peu à peu, cette idée est entrée en lui que il ne pouvait pas continuer à vivre comme ça, avant même, vous savez, avant même qu'il fût chrétien, entre guillemets, et qu'il ait fait ce grand mouvement d'intériorité, il était déjà préoccupé. Alors voyez-vous, je trouve, moi, que Tolstoï est un homme profond. Je veux dire, un homme qui pose des vraies questions. C'est un homme qui vivait, même lorsqu'il n'avait pas encore réalisé son intériorité complète, lorsqu'il ne s'était pas accompli, parce qu'il avait l'impression, à partir de sa 14e année, de s'accomplir, un tâtonnant. Un homme qui avait toujours les yeux levé au-dessus de la réalité quotidienne. Un homme qui ne cessait pas de se poser des questions et qui voulait tâcher de vivre le plus noblement possible. C'est simple, parce que quand il avait 16 ans, il avait commencé un petit journal qui était le journal de ses fautes, de ses manquements. À ce moment-là, vous savez, il avait déjà quitté le christianisme en disant c'est tout à fait de la blague, et en particulier ce qu'il avait éloigné du christianisme, c'était le comportement des chrétiens. Il y a une note de lui, de sa 16e, 17e année, qui dit ceci. Ce qui me renverse, c'est que quand je regarde vivre les gens autour de moi, il est impossible de savoir par leur comportement s'ils croient ou s'ils ne croient pas. Parce qu'ils semblent bien utiles, ils semblent bien. Ce sont ceux qui sont le plus fidèles à la messe, qui sont le plus durs et le plus inhumains. Ça l'avait écarté. Et puis maintenant, vous avez vu ce grand mouvement intérieur qui se produit en lui. Alors si je voulais essayer de définir mon personnage, c'est très difficile de définir en quelques mots. Vous verrez quand même, c'est un homme obsédé par une question qui serait au fond la question du sens de la vie. Et je voudrais vous raconter, vous parler d'un petit texte qu'il avait écrit en 1904, il va mourir en 1910. En 1904, je crois que c'est Biryukov, un de ses amis qui lui a survécu, qui lui avait dit « Vous devriez raconter votre vie quand même ». Il avait commencé, puis ça lui paraissait du narcissisme, mais il s'était arrêté. Néanmoins, il avait eu le temps de raconter un certain nombre de choses, dont celle-ci. Il dit « J'ai jamais oublié que quand j'étais tout gamin, comme ça, c'est 8 ans, il y avait mes deux frères, donc plus âgés que moi, qui avaient entendu les grandes personnes parler à table des frères Moraves. Les frères Moraves, je crois que c'est une secte de dissidents chrétiens du XVIe siècle, qui voulait être des chrétiens fondamentaux, quoi. Et Morave, il paraît qu'en russe, le mot fourni se dit Moravet. Alors, mon frère aîné avait compris les frères fournis. Et il nous disait, on va jouer aux frères fournis. Et pour ça, il disait, là, ce qu'on faisait, on attendait que les grandes personnes soient sorties, et au salon, on se cachait sous une table, on mettait un grand rideau sur la table, un tapis, quoi, et on était là, tout blottis, les uns contre les autres, sous la table, en essayant de penser à être des frères fournis. Et les frères fournis, c'était des gens qui voulaient que les gens soient heureux. Alors il écrivait ce petit instant, cette couverture, ce vieux rideau. C'était pour nous comme la voûte du monde. Et nous nous représentions tous les hommes. Alors il voulait bien, c'est ce qu'il est en 1904. Et de même que je croyais alors qu'il existait une baguette verte sur laquelle était écrit qu'il faut détruire le mal au fond des êtres pour leur donner le bonheur. De même, aujourd'hui que je suis vieux, je crois que cette vérité existe, que ce secret est vivant, et qu'il donnera aux hommes, s'ils savent lire dans leur cœur, tout ce qu'il leur promet. Je remercie Dieu d'avoir pu jouer ainsi enfant, car tout est jeu dans le monde, excepté ça.
Aujourd'hui, il semble que Bernanos s'éloigne un peu de nous, que les jeunes générations ne savent plus très bien qui il est. À l'époque des grands cimetières sous la ligne, Bernanos avait une actualité. Aujourd'hui, il n'en a plus guère. Henri Guillemin, qu'est-ce qui fait votre intérêt pour Bernanos? Intérêt qui va se concrétiser prochainement par la sortie d'un livre.
L'intérêt que Bernanos présente pour moi, c'est sa trajectoire avant tout, sa trajectoire. Vous savez, c'est un homme qui partait de l'extrême droite, puisqu'il appartenait à la Nation française pendant très longtemps. Mais il y a une chose que justement je vais souligner dans mon bouquin, c'est que cette appartenance à la Nation française n'était pas la preuve d'un esprit, entre guillemets, profondément et totalement réactionnaire. C'est curieux ça, parce que Bernanos avait ceci de particulier, que sa critique de la République portait sur une réalité, à savoir que cette république bourgeoise, la troisième république, lui semblait un parasitisme. Et il disait, c'est une fausse république, c'est une fausse démocratie, ce sont des gens en réalité qui sont dupés, le suffrage universel est manipulé par les puissances d'argent, et qu'on ne nous fasse pas croire que c'est une république et une démocratie, ce n'est pas vrai. Par contre, quand vous voyez que dès le départ, dès le Bernanos de Tarson Croisé, les Camelots du Roi, il y avait en lui déjà une revendication sociale. Alors une des choses qui m'ont passionné, vraiment passionné par la question de Bernanos, c'est de savoir dans quelle mesure ce problème des exploités, ce problème des humiliés, n'était pas fondamental chez lui. Et alors il faut savoir ce qui s'est passé en Espagne. Et là je vais vous raconter ce que je crois vrai sur l'évolution de Bernanos. Il était parti pour l'Espagne à la fin de l'année 34, en octobre 34 je crois, parce qu'il était un peu découragé de sa situation à Paris, il gagnait pas sa vie, il ne savait pas comment faire, il avait tenté de faire des rencontres policiers. Alors le voilà qui continue à se battre comme il peut, il a obtenu un contrat invraisemblable avec un maison de poste, je crois qu'aucun écrivain n'a jamais fait ça, il s'est payé à la page, hein. C'est-à-dire qu'il 60 francs la page, et il envoyait tous les 15 jours cette page, il attendait le foot qui arrivait de chez Plon, et il racontera plus tard que c'est un véritable enfer, hein, de travailler à la page, parce qu'il y avait la femme qui était sur mon dos, genre tes pages, j'avais mes gosses qui étaient là, t'as pas tes pages avec petit drague. Et puis c'est au moment où j'étais si découragé que tout à coup se produit un phénomène, une aventure, enfin un drame, qui me paraît d'avoir exaltant. C'est quoi? Ben c'est Franco. Il faut savoir que ce Bernanos qui a écrit Les Grands Cimetières sous la Lune, qui est un livre terrible contre Franco, a été d'abord un enthousiaste de Franco. Pourquoi? Ben une des raisons qu'il avait écarté l'Action française, c'était des gens qui annonçaient perpétuellement le coup de force, et ils n'avaient jamais de coup de force. Il avait fini par les appeler des gens criés à patte. Et voilà qu'il s'était imaginé qu'avec l'insurrection de ce général Franco, dont il ne savait pas grand-chose, c'était une insurrection pour de bon. Il y a une lettre de lui qui est saisissante où il dit pour une fois que les militaires sont ainsi culottés pour faire une révolution, c'est une UN, c'est en Espagne, je ne vais pas les lâcher, hein. Arriba Espagne! Il faut vous dire que son fils, Yves, l'aîné de 16 ans, s'était engagé dans la phalange. Et que je crois pouvoir dire avec exactitude que la phalange n'était pas avant Franco ce qu'elle est devenue après Franco. Il semble, Saint-Arnaud se croyait en tout cas, que ces jeunes phalangistes n'étaient pas nombreux dans l'île à Majorque où il était, ils étaient environ 500, étaient des gens, d'après Bernanos, passionnés du justice sociale. Il nous dit, il faudrait vérifier, que les jeunes phalangistes réclamaient une réforme agraire, qu'ils parlaient même de nationalisation et qu'ils avaient un certain côté anticlérical qui ne lui déplaisait pas. Bon, alors il était content que son fils soit engagé là-dedans, il suggérait que l'opération de Franco allait justement donner à cet esprit de la phalange une espèce d'épanouissement. Et puis peu à peu, en fait très rapidement, les choses ont changé. D'abord, le nombre des phalangistes a cru d'une manière incroyable. Il nous dit, ils étaient 500 au départ, et après la révolution de Franco, ils ont été rapidement 15 000 à Majorque. Et il s'est aperçu rapidement, et son fils lui avait dit, que cette nouvelle phalange était préposée aux plus basses besognes et devenait une espèce d'auxiliaire de la police. Et un jour, dit-il, il a vu rentrer son garçon Yves les yeux de la tête, ce garçon de 16 ans bouleversé, en lui disant, tu sais, on nous a fait faire une chose épouvantable aujourd'hui, on a été obligé de tuer deux vieux types qui n'avaient rien fait. Alors on s'interroge, quoi, qu'ils n'avaient rien fait. Oui, on nous a dit que c'était des gens qui étaient des prêtres, enfin, qui n'étaient pas, qui ne participaient pas au mouvement sauveur. Alors Bernanos commence à réfléchir, à regarder autour de lui, et effectivement, il s'aperçoit que ce qui se passe à Majorque sous ses yeux est monstrueux. En quoi? Bah, ici, il y avait eu des attentats contre les personnes et les biens. J'aurais compris, j'aurais pu comprendre qu'il y ait eu de pareilles représailles. Mais il ne s'agissait pas de représailles, dit Bernanos. J'affirme, ça je sais par cœur, hein, j'affirme sur l'honneur que pendant les 6 mois qui ont précédé le coup de Franco, aucun attentat, ni contre les personnes, ni contre les biens, s'était produit à Majorque. On arrêtait des quantités de pauvres gens qui n'avaient rien fait, qui étaient simplement des suspects. Et naturellement, c'est les plus pauvres qu'on arrêtait. Dans chaque village, il y avait un comité, il y avait naturellement, il y avait les curés, il y avait les sacristains, il y avait les notables, qui établissaient la liste des gens qui étaient suspects de non-participation. Enfin, pas plus. Suspects de non-participation au mouvement sauveur. À savoir quoi? Ben, c'était en réalité une espèce de grande peur des biens en somme, dont vous avez déjà parlé en 1931, une épouvante des gens qui sentaient leurs privilèges menacés. Et qui disaient, sont ces petits gens-là, sont ces pauvres, qui dans un mouvement subversif nous priveraient de nos privilèges. Alors on les tuait. Et Bernanos a dit, mais j'ai vu ces camions gris qui arrivaient au soir tombant dans les villages. Les journaliers, les ouvriers agricoles rentraient chez eux. Ils n'avaient pas le temps de manger leur soupe qui était préparée par la faim. On les montait dans ces camions. Ces camions, ils partaient dans les endroits éloignés. On les faisait descendre des camions et on les fusillait par paquets de 10. Et une fois qu'on avait fusillé 10, on mettait du pétrole sur eux, on les brûlait et on fusillait les autres. Quand j'ai su ça, quand j'ai compris ce qui se passait, alors il me dit lui-même, mes yeux sont ouverts, je me suis décidé, je me suis aperçu que j'étais parti à tort. Et j'étais devant un mouvement horrible, une chose épouvantable. Voici les mots de Bernanos. Le général Franco fait maintenant vivre l'Espagne dans une buée de sang. Partout où il pose le pied, la mâchoire d'une tête de mort se referme sur son talon, et il est obligé de secouer de sa botte pour la décrocher. Et le pire pour un homme comme Bernanos, qui était un chrétien, fait qu'il essayait d'un chrétien, c'est le comportement du clergé. Mais il le savait, dit-il, il le savait, l'archevêque, l'évêque archevêque de Marie, il savait ce qui se passait. Puisqu'il déléguait chaque fois pour chacune de ses exécutions un prêtre qui, les pieds dans le sang, distribuait des absolutions entre deux décharges. Et puis il y a eu cette déclaration collective, l'épiscopat espagnol, où l'épiscopat espagnol justifiait Franco en disant, mais défense légitime, contre quoi? Contre les gens qui menacent la propriété. Alors, dit Bernanos, hein, on a le droit de défendre à coup de fusil sa maison, même quand on en a plusieurs, mais on n'a pas le droit de défendre à coup de fusil son salaire, même si on n'a rien d'autre pour vivre. Alors à ce moment-là, ça a été en lui une explosion de colère. Et il a été fait dans une guerre sous la lune. Pour dire la vérité, moi qui suis chrétien, je ne peux pas être solidaire de ce qui se passe au nom du socialisme. Appuyer ça une croisade, dit-il, c'est un scandale. Vous pensez bien qu'il a été très mal accueilli du côté de Rome, en particulier l'Osservatore Romano a fait un article du révérend Père Cordovani qui était un déchaînement contre lui, en disant c'est inadmissible de penser qu'un homme comme Bernanos va parler contre l'Église et tomber dans l'anticléricalisme le plus bas. La revue française des Jésuites, qui s'appelait Les Études, elle a bien changé depuis. La revue des Études avait fait un article du révérend Père du Passage, où Bernanos était de même traîné dans la boue. Et il a répondu au Père du Passage ceci que je vais vous dire sans savoir exactement par cœur, mais je crois pouvoir vous dire à peu près ce texte. Lorsqu'une torpille tombe dans la rue et s'est volée jusqu'à la fenêtre du révérend Père du Passage, le cadavre est rentré d'un gosse, L'orienteur du passage consulte le ciel, non pour invoquer le Seigneur, mais pour tâcher de déterminer si l'avion est bien pensant. Dans ce cas-là, il cache précipitamment le petit boyau dans sa cheminée afin de ne pas porter préjudice à la croisade des honnêtes gens.
En 1937, Bernanos quitte l'Espagne et rentre en France.
Quand il rentre en France, il dit à ses anciens camarades, qui étaient tous des nationalistes comme lui, il leur dit, mais vous savez, il se passe quelque chose de très dangereux pour notre pays, de l'autre côté des Pyrénées. Déjà, nous sommes menacés au nord-est par Hitler, nous sommes menacés à l'est par Mussolini. Et maintenant, voilà que de l'autre côté des Pyrénées, il va y avoir un troisième danger. Nous allons être pris dans une triple pince, si je puis dire. Réponse de mes camarades, anciens camarades nationalistes. Ils me disent, les Italiens en Espagne, mais tant mieux, j'en ai trop. Tu vas venir aussi les Allemands. Bravo, dis-tu. Alors j'ai compris. Là aussi j'ai compris. De même que j'avais compris pour le catholicisme espagnol. J'ai compris que mes amis nationalistes faisaient semblant de des patriotes, mais qu'en réalité, c'était des gens qui étaient accrochés, mais uniquement accrochés à la préservation de leurs privilèges. J'ai vu, disait Bernanos, mais je me suis rendu compte qu'un homme comme Maurras faisait une politique telle qu'il luttait contre la tentative qu'on avait faite en 1934 d'encerclement de l'Allemagne. Quoi donc? Ben, vous savez bien, c'était Bartou. Alors, il n'y a qu'un seul moyen, disait le petit père Bartou, qui était un homme de la discipline pointarde, si vous voulez. Ben, savoir qu'il faut essayer de dissuader l'Allemagne. Alors, de même qu'on a laissé contre l'Allemagne de Guillaume II une triple alliance, il y avait d'un côté le bloc franco-anglais, de l'autre côté les Russes impérialistes du temps. Et bien, de même maintenant, peu importe que les Russes soient les Soviétiques, ils sont également menacés comme nous. C'était l'idée de Bartou qui disait légitimement, ben, les Russes, ils ont lu comme nous avons lu Mein Kampf. Dans Mein Kampf, nous sommes avertis que Hitler veut nous écraser, c'est-à-dire prendre la Sorelle et j'écraserai la France. Et dans le Mein Kampf, il est dit que les bonnes formes de l'Allemagne céleste. Par conséquent, les Russes savent qu'ils sont menacés. Donc, peu importe que ce soit des Russes, que je n'aime pas, disait Bartou, et je connaissais moi Bartou, je sais à quel point il était anticommuniste. Il faut faire ce que Louis XIV a fait quand il est allié au Grand Turc contre la maison d'Autriche. Il faut qu'on s'allie littéralement avec ces Russes. Et Bernanos disait, j'ai lu la presse nationaliste, la presse conservatrice. Je me suis aperçu que ces gens ne veulent à aucun prix. Ah ben absolument à aucun prix. D'ailleurs, ce militaire avec les Russes, parce que ça fait une contagion des bolcheviques, et que pour eux, le bolchevisme, c'est bien pire que le nazisme. J'ai lu ce qu'ils ont fait à l'égard d'Angleterre. Nous avons besoin de l'alliance anglaise. Eh bien, on a soutenu l'Italie au moment où l'Angleterre avait parlé de sanctions économiques, au moment de l'affaire de l'Éthiopie. Au point même que Laval, vous savez sans doute, que Laval avait proposé à l'Italie, en douce, de mettre à la disposition des forces agressives de l'Italie, notre chemin de fer français de Djibouti à Addis Abeba. Alors Bernanos disait, mais alors, ils comprennent plus rien, plutôt ça s'éclaire d'une manière dramatique. Ils ont refusé, les nationalistes ont refusé l'encerclement de l'Allemagne, mais sont au cas favorables à l'encerclement de la France. Alors, peu à peu, disant, il était là, en 37-38, les grands hebdomadaires, c'est les Candide, Gringoire et Jésus partout, il s'est aperçu qu'il y avait une entreprise allemande, entre guillemets, objectivement allemande, qui était en train de se développer en France. Et voici les phrases de lui que j'ai dans l'esprit, que je peux vous dire avec exactitude. J'ai vu grandir cette tumeur, c'est Bernanos. J'ai vu les élites françaises, ce qu'ils appellent les élites, gagner à l'idée d'une défaite réparatrice. J'ai vu ceux qui se donnent pour des nationalistes, qui s'appellent maintenant des nationaux. Je les ai vus rompre le pacte national et lutter contre la nation au profit de l'ennemi. Évidemment, ça aussi, qu'il avait indiqué déjà dans les consignes sur la Lune, et qu'il indiquera encore plus fortement dans le scandale de la vérité, va faire qu'autour de Bernanos, toute une nuée de haine va se lever. Bernanos est devenu l'objet d'une haine privilégiée de la part de ceux qui étaient des anciens amis, qui a été obligé, précisément, obligé d'abandonner, puisqu'il a vu leur comportement antinational. Et puis, la guerre va éclater.
Justement, la guerre éclate, il y a également la résistance, et depuis 1938, Bernanos est au Brésil. Il combat donc de loin pour la résistance, comme il peut, c'est-à-dire avec sa plume. Puis il revient en juillet 1945, bien que rappelé depuis septembre 1944. Que se passe-t-il alors?
Mais il faut qu'on regarde les choses un peu près. Hein. Bernanos a été réservé à l'égard du général de Gaulle au début. Il y a une curieuse aide de lui qui est du 31 juillet 1940, dans 31 juillet, vous voyez, ça fait un mois et demi après l'appel des 18 juin, où il dit, je suis très content qu'il y ait un général français qui ait redressé le drapeau, enfin, qui ait décidé de combattre. Mais dans cette même lettre du 31 juillet 40, il dit, bravo pour un combattant, mais j'aimerais pas que ce général de Gaulle ait des idées politiques et des idées de gouvernement. Assez de militaires comme ça, dit-il au pouvoir. Nous avons déjà un maréchal, nous n'aurons pas bien un général après. Oui, il a écrit ça. Enfin, comme il voit que le général de Gaulle se bat bien, et c'est une entreprise nécessaire, il se rallie décidément à lui, et en 1942 en particulier, il lui envoie un télégramme en disant totalement derrière vous. Mais à partir de novembre 1942, il y a une inquiétude qui est en Brigitte Bernanos. Lui qui était si peu démocrate, et qui avait détesté même l'idée républicaine parce qu'il l'a trouvé d'ailleurs trahi, qui s'est rallié à l'idée d'une démocratie nouvelle, une démocratie qui serait véritable, pour de bon, une démocratie pas menteuse. Il avait écrit même dans un article de 42, du début de l'année 42, il a dit « Je crois à une grande révolution des droits de l'homme ». Et puis c'est le comportement des Américains après leur débarquement du 8 novembre 42 qui commence à l'inquiéter. Quand ils voient que les Américains prennent d'Arlan, quand ils voient que les Américains s'appuient sur les proconsuls, les Vichysois, qui sont en Tunisie, qui sont en Algérie, qui sont au Maroc, qui sont au Sénégal, dans un article, il dit, alors quoi, vous voulez utiliser les mêmes hommes qu'Hitler? Bon, là, Darlan a une idée. Et vers qui se tournent les Américains? Ils se tournent vers un nommé Giraud, vous savez, le fameux général Giraud. Et Bernanos avait quelques informations sur le général Giraud. Et il écrit, il essaie carrément. Si c'est Giraud qui prend le pouvoir et qui dirige la résistance, ce qu'il nous prépare, c'est pas autre chose qu'une nouvelle pétainerie, dit-il. Un général Giraud qui dit je fais pas de politique, on sait bien ce qu'il signifie. Si quand quelqu'un annonce je fais pas de politique, ça veut dire que c'est la politique de la droite. Alors attention. Et si les Américains sont derrière lui, qui sont obstinément préoccupés d'utiliser les Darlans puis les Giraud, ah oh, j'ai bien peur, disait Bernanos, j'ai bien peur que le berceau de la France libre ne soit établi dans une dépendance du vieux palais d'Hérode. J'ai peur, et c'est-il carrément, j'ai peur qu'une fois de plus l'espoir des hommes soit confisqué par les intérêts particuliers. La guerre se termine, et effectivement, dès septembre 44, il est convoqué. D'abord, c'est le père Bolberger qui se permet de lui envoyer un télégramme officiel en lui disant qu'il faut venir. Et puis, c'est De Gaulle qui lui fait envoyer un télégramme en son nom en lui disant de venir. Et vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement, il n'est revenu en France qu'en juillet 45. Qu'est-ce qu'ils ont passé? Ce sont des choses confuses, vous savez, sur lesquelles j'aime pas beaucoup m'étendre. Il y a eu de grands drames dans la vie de Bernanos au Brésil, dans l'année 44-45. Il faut savoir, et c'est pas agréable à dire, que Bernanos était un homme physiquement malade, hein. Il avait des crises, il avait des choses nerveuses, des crises où il frôlait la folie. Il y a eu des drames familiaux, sur lesquels nous n'avons pas besoin de nous étendre. Ce récit qui m'est arrivé en effet en France qu'en juillet 1945, c'est-à-dire longtemps après la libération, et son arrivée en France a été pour lui une épouvantable déception. Bernanos écrit, je m'étais imaginé que la libération de Paris, c'était les divisions cuirassées de la Wehrmacht qui venaient s'écraser sur des barricades pleines, plein de surgés parisiens au bras nus. Ça s'est pas passé comme ça. Quand il arrive et qu'il se renseigne, qu'il s'informe, il sait que cette libération de Paris n'a pas été aussi glorieuse qu'on le disait. Bien entendu, il y a eu des héros, il y a eu des gens qui ont perdu leur vie très courageusement pour cette libération qu'ils croyaient au bout de leur baïonnette. En fait, la libération de Paris, c'est ce qu'on pourrait appeler plus exactement l'évacuation de Paris. Car les Allemands commençaient à partir du 17 août à partir, et c'est le 18 août qu'un certain nombre, un tout petit nombre, de Parisiens sont lancés dans la rue. Bernanos a compris tout ça, il a dit, mais on m'a raconté des blagues, ça, j'ai vécu une fois de plus sur des légendes. D'autre part, vous savez, par la citation même que je vous ai faite d'une lettre du 31 juillet 40, qu'il n'était pas très enthousiaste de De Gaulle chef d'État. Et De Gaulle était chef d'État. Et il va le recevoir. Une seule fois. Quand Bernanos a été invité par le général à Colombelle et deux églises, il reste très aimablement, très poliment, il l'avait reçu à déjeuner, puis après il avait parlé, plus exactement, vous voyez ce qui s'était passé. Bernanos qui avait parlé, ben, il était déçu, mais déçu à mort. C'est une phrase invraisemblable, il a dit à Gérald, c'est une race, c'est Bilindor. Ben non, quoi, Bilindor, c'est un personnage, c'est gros, mais De Gaulle n'est pas gros. Il voulait dire, c'est un personnage en caoutchouc. Quoi, en caoutchouc? Ben oui, disait Bernanos, je parlais, je racontais, il développait mes idées. Et puis mes idées me revenaient directement, vous savez, comme quand on lance une balle sur une paroi de caoutchouc, elle vous revient dessus. Il y avait le général devant moi qui avait les jambes croisées, qui me disait, alors, monsieur Bernanos, expliquez-moi vos idées. Il avait les mains jointes, comme s'il disait pas pour rien. Moi, je parlais abondamment, et de temps en temps, le général me disait, je vous comprends. Puis c'est tout. Puis une fois que j'ai dit, parlé, il m'a dit, au revoir, monsieur Darlan. Alors, il dit, je suis parti à tort, hein. La France, disait Bernanos, elle a pas tellement besoin d'un chef. Elle a besoin d'une idée. Les Français ont besoin d'une idée vers laquelle marcher ensemble. Et du coup, il leur a rien proposé, comme idée nouvelle, rien. Il leur parlait de la grandeur. Alors que la grandeur française, ben, elle est périmée maintenant. On pourrait d'abord une autre forme de grandeur, mais pas celle dont il nous parle. Et puis sur l'épuration. Oh, c'est pas du tout que je suis, disait-il, Bernanos, je suis pas tellement scandalisé par des épurations qui ont été quelquefois abusives et les bavures. Mais l'épuration vraie, on l'a pas faite. Regardez par exemple la coloration économique. Il y a des gens qui ont fait des fortunes extrêmement. Pas tous, hein. Regardez les magistrats. Il y a des magistrats qui avaient eux-mêmes demandé, pour faire plaisir à Pétain après avoir prêté serment, de juger les condamnés d'Orient, qui avaient été condamnés d'avance, vous savez, c'était les hommes de la troisième République condamnés d'avance. Et bien, ce sont les mêmes qui viennent en pleurant de demander de juger le maréchal, après avoir lui prêté serment au maréchal. Et puis, il y a les officiers. Parce qu'il y a des tas d'officiers qui ont abandonné leur poste. Et bien, on touche pas aux officiers, on touche pas au maréchal Pétain, soit d'accord, mais des gants. Quand j'ai vu au procès, plein de mortes, d'assurance, d'insolence même, avec ses tirniflements et ses façons de placer son monocle. Pas touche, disons. Alors on touchera à des pauvres types comme des miliciens, qui ont mal fait, qui ont été légitimement punis, mais on ne touchera pas au chef. Eh bien ça, c'est inqualifiable. Par conséquent, du côté de l'épuration, du côté de la proposition des Français à marcher tous ensemble dans un but, rien, dit Ramos. Qui vient finalement autour de lui, c'était une espèce de déception, dans lui, cette déception, et autour de lui, dans une lettre André Rousseau, il dit, ce qui m'entoure maintenant, ce n'est même plus la solitude, c'est le vide.
Comment le vide? Il n'y avait donc vraiment plus personne autour de lui?
Je l'ai connu à ce moment-là. Je l'ai connu seulement en 45 ans, 46 plus exactement. Et les deux ou trois fois où je l'ai vu, je l'ai trouvé profondément déchiré. Il était déchiré parce qu'il avait l'impression que personne ne voulait écouter ce qu'il avait à dire. Je me rappellerai toujours un déjeuner auquel j'avais été invité par François Mauriac et qui l'avait dit donc aussi. Il y avait André Citroën, lui, c'est Doris. Et le nom de Bernalos avait été prononcé. Et je me rappelle encore l'espèce de grimace de Brisson, le directeur de Cédaro, qui disait à Mauriac, vous m'avez fait avaler du Bernalos, mais c'est fini, hein. Un pareil énergumène. Bernalos avait cru pouvoir trouver une tribune dans le Figaro. On l'avait coupé. Il essayait de placer sa copine, hein, les uns pour vivre. À droite et à gauche, il y avait toujours des journaux secondaires qui acceptaient. Parce qu'il disait des choses qui n'étaient non conformes pour tout le monde. Bien entendu qu'il était détesté du côté des réactionnaires, enfin des pétainistes. Mais il était aussi détesté du côté d'un certain nombre de gaullistes, parce qu'il n'était pas avec nous devant le général de Gaulle. Et parce qu'il disait que d'une manière générale, sans parler même de ce qu'on aurait pu faire au lendemain de la libération, les Français ne posaient pas la vraie question, disait-il. Ces vraies questions, figurez-vous qu'ils les avaient posées de longue date. Pensez donc qu'ils les avaient posées depuis 1931, dans sa grande peur des bien-pensants, qui n'était pas un livre entièrement réactionnaire comme on le croit encore. La rupture en 31 n'est pas faite entre Bernalos et l'action française. Néanmoins, à bien lire, comme j'ai laissé aller la grande part des bien-pensants, on y trouve de curieuses phrases. Exemple, tu connais la Russie en 1931, il fallait cracher, hein, c'est dégueulasse. Bernalos parlait de la prodigieuse expérience russe. Dans un livre écrit par un homme encore d'action française, dans la France d'action française, il était naturel que le nom de Jaurès appela immédiatement une insulte. Et bien, à trois reprises, dans la grande part des bien-pensants, Bernalos parle de le grand Jaurès, la voix du grand Jaurès, ce rayonnement, non pas wagnérien, mais chiléen, qui sortait de lui. Dans les choses, il n'avait pas lu. Il avait parlé de l'ordre établi. Il avait parlé de la commune avec une grande admiration, en disant que ça avait été une révolte d'esclaves. Et qu'est-ce qu'elle fait, la bourgeoisie, lorsqu'elle voit les esclaves se révolter, elle ne pense qu'à resserrer d'un tour et d'un tour encore l'ordre administratif vissé par Bonaparte. Voilà ce qu'il avait fait en 31. Alors maintenant, et j'ajoute qu'il avait dit aussi en 31 ceci, nous assistons à une véritable curée de la planète. Vous entendez, curée de la planète. Ce mot qui est aujourd'hui une banalité, il l'a prononcé en 31. Et bien en 45, 46, 47, et il va mourir en juillet 48, Bernalos c'est quelqu'un qui ne cesse de dire, mais pourquoi disiez-vous? Enfin, qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce que c'est que vous voulez? Vous voulez des machines? Les machines, c'est utile, naturellement, mais ce que je déplore, c'est qu'on dresse les gens à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. Ce qu'il faut, disait Bernalos, ce qu'il faut, c'est faire un pacte avec votre âme. Oh, c'est bien, lui-même me l'a dit. Il m'a dit, âme, c'est un mot décrié. C'est un mot aussi compromis et aussi inemployable que Dieu. Âme, dans un certain vocabulaire vieux art, âme, ça évoque je ne sais quel petit ballonné en matière plastique qu'on aurait dans la tête ou dans le cœur et qui serait plein de matière subtile et aromatisée. L'âme, m'a dit l'âme. M'a dit l'âme, c'est pas ça. C'est le jeu profond, cette espèce de noyau précaire et farouche qui fait que nous existons comme des hommes libres. Eh bien, autour de nous, personne n'en parle de ça. Personne. Les communistes ne nous proposent qu'une nouvelle organisation où les gens mangeront, c'est entendu. Mais le but sera le bien-être. Le but n'est pas le bien-être, dit Bernalos. Le but, c'est de comprendre ce que l'on fait ici et d'essayer de vivre comme des hommes libres et comme des hommes qui pensent et qui ne sont pas simplement des robots et des machines. Vous savez qu'il a écrit un beau texte, mal lu aujourd'hui, peu connu, qui s'appelle « La France contre les robots ». Et c'est l'idée fondamentale. Les robots, nous sommes condamnés à ne vivre, dit-il, que sur un petit trognon d'âme. Et l'homme ne peut exister que s'il a sa dimension complète. Personne n'a l'air de s'en occuper. Et le général de Gaulle, un petit con. C'est pour ça que je vous parle de solitude autour de lui. Et ça joue dans quelles conditions il a été enterré. Bernanos est un homme qui, lorsqu'on a porté son corps à Saint-Séverin, n'a eu derrière lui personne, disait le grand écrivain, même pas Mauriac. Si Malraux était là, en souvenir de la guerre d'Espagne. Du côté de la hiérarchie ecclésiastique, personne. Il avait bien trop mal parlé de l'Église. Du côté du pouvoir, il y avait deux catholiques qui étaient au pouvoir. Il y avait un président du conseil qui s'appelait Robert Schuman, il y avait un ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Nido. Ni l'un ni l'autre, et pas de Belize. Les seuls officiels, et je dis le mot entre guillemets, qui étaient pour les funérailles de Barbano, c'était une délégation du gouvernement espagnol républicain en exil. C'est tout. On peut dire que c'est vrai. Il est mort dans le vide. Et s'il aimait tellement Barbano, c'est parce que c'était un homme qui avait une haute idée de l'homme et qui était déchiré par ce que l'on faisait de l'homme. C'était quelqu'un qui n'avait jamais voulu se pousser, vous savez sans doute qu'il avait refusé 3 fois la Légion d'honneur et qu'il a refusé d'entrer malgré la proposition de François Mauriac à l'Académie, en disant simplement à Mauriac cette distinction n'est pas pour moi, et en écrivant parallèlement à un ami, il y a certaines vérités qu'on ne peut plus dire en costume de carnaval. Bernou, c'est un homme qui croyait à la force brisante d'une parole sincère et libre. C'était quelqu'un qui voulait nous atteindre tous, qui faisait à l'humanité, au creux du cœur, comme il disait, au centre du vital, au bulbe du géant aveugle. Pernos, c'est quelqu'un, il l'a dit assez, qui disait non, on m'oubliera plus tard, ça n'a aucune importance, l'immortalité, je m'en fous, disait-il. Ce n'est pas ma chanson qui est immortelle, c'est ce que je chante.
Le maréchal Pétain, homme providentiel, a fait don de sa personne à la France pour la protéger dans son malheur, et ceci au poste de chef de l'État. Pourtant, malgré cette fonction, la légende veut que Philippe Pétain n'ait jamais fait de politique. Henri Guillemin.
Évidemment, c'est ça que j'ai cru, et j'étais pas le seul. Lorsqu'on a entendu ce nom et qu'on a su qu'à partir du 16 mai 1940, le maréchal Pétain était au pouvoir, on avait le sentiment d'un personnage jusqu'alors volontairement effacé, qui s'était retiré de toute vie militante et qui, subitement, devant la misère de la France, reparaissait pour l'aider. Ben, c'était pas vrai. Rapidement, enfin non, je ne dis pas rapidement, je me trompe en disant ça. Peu à peu, je me suis aperçu, c'était pas vrai. Pas tellement durant la guerre, c'est après, lorsque les documents ont apparu, que je me suis aperçu que nous avions été tous victimes d'une légende. Quelle légende ? Eh bien, en 1935, figurez-vous, il y avait Pierre Cotte, qui était pourtant un homme de discernement, qui a fait un article pour indiquer que le maréchal Pétain était admirablement loyaliste, et que c'était pas un homme dans la République devait se méfier. Je sais pourquoi, je sais maintenant. C'est qu'en 1924, il y avait une histoire dont les Français n'ont pas été tous au courant, et qui était assez menaçante. En 1924, au moment du cartel des Gauches, quand le cartel des Gauches avait pris le pouvoir, le maréchal, oui, je croyais qu'il était maréchal, Lyautey, avait essayé une tentative de coup de force. Il est allé voir des gens, en particulier il est allé voir Foch, et Franché d'Espéré, et d'autres, en leur disant il faut renverser la République. Et le bruit avait couru, mais sourdement, enfin dans les milieux bien informés, que le maréchal Pétain s'y était absolument opposé. La question aurait même été directe de la part de Lyautey, mais enfin supposer que Herriot, qui est au pouvoir, fasse quelque chose qui révolte votre sentiment français, que feriez-vous ? Le maréchal Pétain aurait répondu, Herriot représente l'État français, le gouvernement français, j'obéirai. Avait-il vraiment répondu ainsi, toujours est-il que le bruit en avait couru et que, bien que l'opinion publique en général n'en ait pas été informée, Pierre Cotte, qui est un homme politique, le savait. Donc, 1935, le maréchal n'apparaît pas encore comme un homme politique dangereux pour la démocratie, pour la République. Et cependant, peu à peu, on a réfléchi et les documents dont je parlais tout à l'heure sont apparus. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ? Ben d'abord, on a pu remarquer qu'au moment de la constitution du gouvernement Doumergue, c'est assez curieux que Doumergue ait fait appel au maréchal Pétain. Pourquoi ? Vous vous rappelez bien ce qu'avait été le 6 février, c'était une première tentative pour renverser la République, c'était les mouvements d'Action française d'une part, la Ligue des Croix de Feu d'autre part, les jeunes patriotes enfin, et j'ai eu tort de dire enfin parce qu'il y avait d'autres ligues, qui avaient essayé, place de la Concorde et ailleurs, de faire un grand mouvement pour renverser la République, pour renverser la démocratie. L'antiparlementarisme s'est largement développé, la situation avait été dramatique puisqu'il y avait 16 morts et 600 blessés. Toujours est-il qu'à la suite de cette grande manifestation, le gouvernement change et c'est Doumergue qui vient au pouvoir. Doumergue constitue un gouvernement dit d'union nationale, où on voit en effet M. Édouard Herriot qui soi-disant représentait la gauche, accompagnant M. Laval et M. Flandin qui représentaient la droite. Pourquoi le maréchal Pétain ? On n'y a pas assez réfléchi en effet, parce que si le problème avait été un problème d'ordre extérieur, si la France avait été menacée, on comprend que Doumergue fit appel à un maréchal de France. Mais la question était de pure politique intérieure. Et aujourd'hui, on comprend ce qu'on n'avait pas compris sur le moment. C'est dit simplement, gouvernement d'union nationale, c'est très bien, le maréchal représentant, en effet, symbole militaire de la France. En fait, quoi ? Eh bien, en fait, le maréchal Pétain était appelé par Doumergue parce que Doumergue connaissait les sentiments réels de Pétain et savait que la présence de Pétain au pouvoir calmerait les ligues. Il s'agissait, en effet, à ce moment-là, de maintenir une apparence de gouvernement républicain, une république, troisième république très favorable aux grands intérêts, et qui était en fait, en réalité, une dictature occulte des intérêts économiques, et le maréchal Pétain était là comme sauvegarde d'un ordre permanent. On savait que la présence du maréchal rassurerait ses ennemis les plus véhéments et les plus impatients de la République. Maréchal Pétain ne se contente pas de faire figure. Il fait peu de choses, mais quelque chose quand il est ministre. Il ne fait rien du côté de la défense nationale, ce qui est surprenant et j'ai rien eu ce valeur. Mais il fait des choses du côté de la politique intérieure. Tous les ministres raconteront après, tous les membres du gouvernement d'Oumergue, que le maréchal est de volonté silencieux. Et à deux reprises, il a pris la parole. Quand le maréchal Pétain prenait la parole, vous pensez quel prestige, hein ? La première fois, c'était au début d'octobre, je crois, quand il a brusquement, pour la stupeur de tous les ministres, demandé que Chéron quittât son poste, qui était Chéron, c'est ministre de la Justice. Et à ce moment-là, si vous vous rappelez, il y a une affaire que la droite exploitait beaucoup, la mort mystérieuse, effectivement mystérieuse, du Conseil des Princes. Or, tous les journaux de droite étaient déchaînés contre Chéron, parce qu'il disait Chéron, ministre de la Justice, ne fait pas ce qu'il faut, et court, semble-t-il, court, les véritables responsables. On s'est étonné, parce que le maréchal Pétain prit la parole avec une certaine énergie, et même une brutalité inattendue de sa part, contre ce malheureux et gros monsieur Chéron, qui a été stupéfait et qui a immédiatement donné sa démission. Premier point. Deuxième point, vous vous rappelez Bartou qui est assassiné. C'est pas sa faute, si je puis dire, c'était pas lui qu'on visait, c'était le 9 octobre 1934, ça se passe à Marseille. Il y avait Alexandre Ier de Roumanie qui était en visite, et c'est un Yougoslave véhément qui l'a tué. Les coups de feu étaient dirigés contre le roi, mais des balles avaient également atteint Bartou, qui n'est pas soigné immédiatement comme une fanisseur, qui perd tout son sang et qui meurt. Deuxième intervention de Maréchal Pétain, pour dire à la succession de M. Partout aux affaires étrangères, il ne voit qu'un nom, Laval. Alors, il faut savoir, c'est très important, que si Laval a pris le pouvoir aux affaires étrangères, c'est par la volonté, par la détermination et par l'intervention expresse du Maréchal Pétain. Troisième observation qui est venue plus tard, un ministre en principe s'occupe de sa fonction et ne veut pas regarder ce qui se passe dans les autres portefeuilles ministériels. Or, on sait à deux reprises, le Maréchal Pétain étant ministre, est intervenu auprès de son collègue de l'éducation nationale pour presque le rappeler à l'ordre, il s'est passé des notes. Ce n'était uniquement à cause de la personnalité du maréchal Pétain qu'on ne s'en est pas scandalisé, on s'est dit qu'il peut se permettre lui des choses qu'un autre ne se permettrait pas. Toujours est-il que sortant de ses attributions, ministre de la guerre, le voilà qui fait savoir au ministre de l'Instruction publique qu'il ne fait pas bien son métier et qu'il y a des gens à surveiller. Qui donc ? Eh bien, les enseignants et très particulièrement les instituteurs. Les deux notes du maréchal Pétain sont pour dire, nous avons malheureusement en France un camp enseignant gangréné qui apprend la subversion aux jeunes gens, qui apprend l'irrespect de l'armée. Je vous demande, monsieur le ministre, d'ouvrir les yeux sur cette situation. Voici les trois interventions, assez nettement orientées, comme vous le voyez, du maréchal Pétain, ministre. Bon. Maréchal Pétain n'est plus ministre, quand Domergue abandonne la partie, c'est le 16, je crois, octobre. Mais le voilà qui va se manifester une nouvelle fois, et dans des circonstances retentissantes, le 3 décembre. Je n'aurais pas su si je n'avais pas lu le livre, très bien fait du reste, de Izorni sur Pétain. Les mots qu'emploie Izorni sont clairs. Izorni lui-même reconnaît que c'est un discours politique que le 3 décembre 1934, Pétain prononce. Où ? Eh bien, dans cette manifestation très parisienne, très tout Paris, alors, qui s'appelait le dîner de la revue des deux mondes. Il y avait tous les ans un dîner de la revue des deux mondes, vous savez ce que c'était que la revue des deux mondes qui tente de leur devenir, l'organe de la grande bourgeoisie, la revue Chaumont qu'on trouvait dans tous les salons. Une fois par an, il y avait un grand dîner, et tout Paris se réunissait, et effectivement, ce jour-là, c'est le maréchal Pétain qui est hôte d'honneur, et dont on a fait un discours. Je cite encore M. Izorni, qui dit, il n'est pas apparu comme maréchal, il est apparu presque en costume de chef d'État. Il était venu avec son frac et avec le plastron blanc coupé, une traversée du grand cordon de la Légion d'honneur. Et il a prononcé un discours, je répète, politique, dirigé entièrement sur la question de l'éducation, ce qui semblait l'obséder. En effet, il a demandé ce jour-là que la France vérifie la fonction et le travail des enseignants, qui sont des gens très dangereux, et là, en somme, on peut résumer, je ne crois que je ne trahis pas sa pensée, en disant qu'il faut une réforme de l'école afin qu'elle devienne l'antichambre de la caserne. Maréchal Pétain demande que les jeunes élèves de France, et surtout dans l'école primaire, soient dressés au respect des hiérarchies sociales. Bon. 1935, Maréchal Pétain se fait remarquer, sinon par une acceptation très inattendue, d'entrer dans un nouveau gouvernement républicain, soi-disant, entre guillemets, le gouvernement Buisson. Il a eu un jour d'existence, le gouvernement Buisson. C'était un curieux socialiste, Buisson, qui avait annoncé, lorsque je serai président du Conseil, je mettrai immédiatement la Chambre en congé sine die. C'est cette proposition qui avait intéressé Pétain, il a accepté d'entrer dans un ministère où était aussi Édouard Herriot qu'il prétendait ne guère aimer. Il n'avait accepté d'entrer que parce qu'il espérait qu'effectivement ce Buisson mettrait la Chambre en congé. Buisson était un homme dont le parler un peu vulgaire, disant tout ça c'est des couillons, on ne peut rien faire avec la Chambre. Ah, ça intéressait Pétain de ne rien faire avec la Chambre. 1936, nouvelle apparition du maréchal Pétain au premier plan de l'actualité, entre les deux tours des élections qui vont amener au pouvoir le Front Populaire. Jusqu'alors, le maréchal Pétain avait toujours fait savoir qu'il ne refusait toute interview. Et effectivement, jamais il n'avait donné d'interview. Et voilà que pour une fois, entre les deux tours, dans le journal, grand quotidien, le journal du 30 avril 1936, Michel Pétain fait un petit discours. Les questions avaient été pour l'instant nous préparées avec le rédacteur, et on lui demande quel est l'avenir que vous voyez pour la France. Elle dit Rassemblement national. Le Rassemblement national, c'est un mot qu'il faut retenir, parce qu'il prépare la révolution nationale que nous verrons en action à l'issue. Mais, le point central, à mon sens, du discours de Pétain était sur l'alliance russe. La question avait été posée, vous vous rappelez bien qu'il y avait un pacte franco-russe qui avait été signé, du reste par Laval, pour les circonstances sur lesquelles je n'ai pas insisté, en mars 1935, et pendant longtemps, Laval lui-même, vous m'entendez bien, Laval lui-même avait travaillé à la non-ratification de ce pacte qu'il avait signé. Puis le gouvernement Sarraut, au début de 1936, l'avait ratifié. Et le maréchal Pétain, ce 30 avril 1936, se permettait de dire que c'était extrêmement dangereux, qu'il regrettait énormément que tout accord avec les Russes comportait une contagion du bolchevisme sur la France. Ce n'était pas sans intention qu'il avait déclaré ça entre les deux tours, puisque le bruit courait que la gauche allait probablement avancer considérablement aux élections de 1936. Il l'avait fait. Et maintenant, j'arrive à l'essai nouveau, je dis nouveau parce que M. Zorn n'en parle pas, dans son livre, pourtant bien fait, je le souligne, il les connaissait, il n'a pas jugé bon d'en parler, et je tiens au contraire à en parler. Le premier document a été révélé dans la publication américaine des archives secrètes de la Wilhelmstrasse. C'est un télégramme en date du 14 avril 1937, envoyé d'Espagne à Berlin. Envoyé par un général qui s'appelait von Faupel, et von Faupel était le premier représentant qu'Hitler avait envoyé à Burgos. Vous vous rappelez bien que Burgos a été la capitale de Pétain jusqu'à ce que Madrid tomba. Et bien, ce 14 avril 1937, German von Faupel, s'adressant au Führer par l'intermédiaire naturellement de la Wilhelmstrasse, c'est-à-dire de Ribbentrop, disait « Une information importante m'a été apportée hier, que je tiens à apporter à votre connaissance. J'ai vu Serralius Sounière, qui je crois bien que le ministre de l'Intérieur, en fait, est un des collaborateurs les premiers de Franco, lequel m'a fait savoir, de manière la plus directe, que le président Laval, c'est comme ça que s'exprimait Faupel, avait exprimé au général Franco le désir d'avoir une communication avec lui. Le général Franco avait donc envoyé quelqu'un à Paris, ce quelqu'un avait vu le président Laval, le quelqu'un était revenu à Burgos, et avait dit tout de suite, et voici ce que Faupel traduisait à Berlin, immédiatement, Laval est très content parce qu'il est en cheville avec le maréchal Pétain pour préparer un gouvernement d'union nationale. Tiens, tiens, un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire, à ce moment-là, il est encore, en avril, oui, il avait encore Blum au pouvoir, il a essayé de renverser Blum et de préparer un gouvernement, entre guillemets, national. Premier point qui indique que lorsque Pétain dira plus tard, moi, Laval, je n'ai très plus connu, il s'est présenté à moi à Bordeaux, il m'a rendu de grand service, mais je n'avais aucun rapport avec lui, en particulier, il mentait, puisque nous savons donc, par ce télégramme du 14 avril 1937, il y avait déjà des rapports secrets entre le maréchal Pétain et Laval. Le deuxième document est un an plus tard, presque jour pour jour, enfin le 18 mars 1938, et ça c'est un document italien. Mussolini avait à Paris un informateur dont M. Gallo, Vince Gallo, qui nous a révélé le document et qui nous l'a présenté en photocopie du reste dans son livre, cinquième colonne, ne nous dit pas le nom. L'informateur de Mussolini à Paris, je crois savoir, je ne l'affirme pas, il s'appelle Giobbe, G-I-O-2-B-E. Giobbe, le 18 mars 1938, annonce personnellement à Mussolini, parce que Giobbe ne passait pas par l'intermédiaire de Tchano, il correspondait directement avec Mussolini. Et dans le facsimilé dont je vous ai parlé, on voit dans l'angle supérieur gauche le M de Mussolini indiquant qu'il avait lu le document. C'est un document qui rejoint exactement celui dont je viens de vous parler, à savoir, moi, Giobbe, j'ai eu hier, donc 17 mars, une entrevue avec le président Laval, qui m'a dit, l'avenir n'est pas si mauvais que ça, le maréchal Pétain et moi, nous préparons un gouvernement d'union nationale. Voilà donc deux phrases, distantes chacune d'une année, qui établissent qu'il y avait des rapports secrets entre Pétain et Laval, en vue d'un renversement du système. D'autre part, il faut que je vous signale une lettre très extraordinaire que Pétain a écrite à une phrase, un bout de phrase, dans une grande de ses maîtresses qui avait mis Mrs. Pardy, la lettre du 10 octobre 1938. Il lui dit « C'est sous peine de mort, vous entendez bien, c'est sous peine de mort qu'il faut changer la politique intérieure française, Point, mais les Français n'ont pas encore assez souffert. »
Ils ont souffert, les Français, puisqu'il y aura la guerre. Et n'y a-t-il pas eu, justement, à ce moment-là, une intervention inattendue et plutôt surprenante, en faveur d'un livre très très rassurant qui s'appelait « L'invasion est-elle possible ?» Non. Et ce livre était du général Chauvineau.
Oui, vous avez raison, c'est une chose très mystérieuse sur laquelle je voudrais faire la clarté. Général Chauvineau publie donc un livre assez extraordinaire, « Une invasion est-elle encore possible ?» Non. Et c'est au printemps 1939, alors qu'un an plus tard, on va voir à quel point l'invasion est possible. Mais ce livre est préfacé et lancé, préfacé par le maréchal Pétain. Dans ce livre, il y avait deux affirmations capitales. Premièrement, on a parlé beaucoup des chars, et certainement que Chauvineau visait De Gaulle, qui depuis son livre de 1934, l'armée de métier, demandait des divisions cuirassées. Et en termes exacts, et ceci, parce que je le citais même, la faillite des chars est aujourd'hui éclatante. Il écrit ça après ce que l'on avait vu en Espagne, où les chars allemands avaient triomphé de la République espagnole. Première affirmation. Deuxième affirmation, l'aviation n'aura jamais qu'un rôle de surveillance sur les arrières. Or, on sait bien, on avait vu à quel point l'aviation de Göring, par exemple, avait été efficace, puisque l'aviation hitlérienne, fort intelligemment du reste, travaillait même en première ligne avec les Stuka. Alors la question que je me posais la suivante, pourquoi le maréchal Pétain a-t-il préfacé un livre qui annonce la faillite éclatante des chars et l'inutilité de l'aviation, quand, écoutez-moi bien, quand, les 1er mars et 8 avril 1935, premièrement dans un article dans la Revue des Mondes, et deuxièmement dans un discours à l'école de guerre, le maréchal Pétain avait tenu un discours littéralement contraire. Il avait dit, et à ce moment-là, quand j'ai lu ce texte, je m'étais dit, on ne pourra pas reprocher à Pétain d'être un sclérosé et qu'il veut faire la prochaine guerre comme la guerre de 1914. Il avait dit, les chars et l'aviation changeront considérablement la phase de la prochaine guerre. Il avait dit ça. Alors voilà, qu'en 1939, après avoir dit ce qu'il avait dit en 1935, il dit exactement le contraire. Il soutient le livre d'un homme qui dit les chars ne comptent pas et l'aviation ne compte pas. Je me pose la question, et je ne peux pas m'empêcher cette question, de la rapprocher de la lettre dont je viens de vous parler, hein. Les Français n'ont pas encore assez ouvert. Comme si le maréchal Pétain, obsédé de politique intérieure, il l'a dit, c'est la politique intérieure qu'il faut changer sous peine de mort. Comme si le maréchal Pétain s'était dit, eh bien, si les Français souffrent dans une guerre, et si jamais ils perdent cette guerre, ce sera pour moi l'occasion de la rappeler. Et c'est une politique intérieure de mon choix.
Les interventions du maréchal Pétain sont peu nombreuses, comme vous venez de le dire. Néanmoins, elles sont claires, et ses options politiques, elles aussi, sont claires. Comment fait-il donc que le 10 juillet 40, la Chambre du Front Populaire vote à une écrasante majorité les pleins pouvoirs à Pétain?
Il faut peut-être remonter un peu en arrière. Il faudra d'abord que je vous parle du comportement de Pétain pendant la guerre. Il avait déploré cette guerre. Il ne voulait pas la déclaration de guerre. Il avait été mis quoi déjà avec éclat. Il avait décidé qu'il ne fallait pas soutenir la Tchécoslovaquie. Et de même, il avait accepté que la Pologne fût écrasée. Lorsque Daladier constitue son gouvernement de guerre, il voudrait faire comme il y a en 1914, c'est-à-dire un gouvernement d'union nationale où tous les partis soient représentés. Il demande à Pétain, qui était alors, vous le savez, depuis le mois de mars, ambassadeur à Madrid, de faire partie de ce gouvernement. Pétain refuse. Il refusera une seconde fois au début de mai, exactement le 1er mai 1940, où Paul Reynaud, qui est maintenant président du Conseil, lui demande de venir faire partie du gouvernement. Il refuse. Tous les observateurs ont constaté que Pétain, qui était ambassadeur de France à Madrid pendant la guerre, disait ouvertement que cette guerre était une erreur et que vraisemblablement elle allait tourner mal. Mais il ne s'était pas contenté de ces pronostics qui étaient tout de même inattendus de la part d'un représentant de la France à l'étranger et annonçant que lui-même déplorait cette guerre et en attendait une fâchée issue. Il avait fait quelque chose d'infiniment plus grave. Il s'est trouvé, lui, représentant d'une nation en guerre, en face d'une autre nation en guerre. J'ai été un moment sur la France de la diplomatie pendant 17 ans et j'ai demandé comment doivent se comporter les ambassadeurs de pays rivaux lorsqu'ils sont face à face dans un pays neutre. Eh bien, on m'a répondu en consultant le protocole qu'à ce moment-là, si les ambassadeurs ne vont pas se traiter comme des chiffonniers naturellement car ce sont des gens bien élevés, ils doivent échanger un discret et lointain signe de tête. Or, le maréchal Pétain s'est trouvé en présence du général von Storer qui lui représentait définitivement à la place de von Faupel Hitler auprès de Franco. Ça se passe cette fois à Madrid. Tout le monde surveille. Qu'est-ce que va faire le maréchal Pétain? Qu'est-ce que va faire une Storer, puisqu'on représente deux nations en guerre? Stupeur de l'assistance quand on voit le maréchal Pétain lui-même faire plusieurs pas dans la direction de son Storer et lui serrer ouvertement la main. C'est un geste qui lui aurait valu sa révocation immédiate si ça n'avait pas été le maréchal Pétain. On ne touche pas au maréchal Pétain. Toujours est-il que voilà le désastre qui arrive. Le maréchal Pétain accède d'entrée au pouvoir le 16 mai 1940. Et son officier d'ordonnance, le capitaine Bonhomme, inscrit sur son petit carnet qui a été publié depuis, la guerre peut être considérée comme perdue. C'est donc seulement au moment où la guerre peut être considérée comme perdue que Pétain accepte d'entrer au gouvernement. Pourquoi? Pour utiliser cette perte de la guerre en vue de ce qui pourrait être le mieux. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que le maréchal Pétain est un traître qui a voulu la défaite française. Je dis que le maréchal Pétain est un homme qui avait des idées politiques très précises, qui se vantera plus tard d'avoir été les premiers abonnés de l'Action française, qui disait « Je ne lis aucun journal sinon le journal de Maurras » et qui croit fondamentalement et sincèrement que ce sont les idées de Maurras qui peuvent sauver la France. Alors voici le désastre qui arrive, un désastre qu'il a senti, je n'oserais pas dire qu'il a provoqué, bien que son comportement à l'égard du général Chouvineau me reste sur l'estomac, toujours est-il que le voilà le désastre. Alors que va faire le maréchal Pétain? Il va proposer d'abord l'armistice, et il va proposer ensuite une révolution nationale. Proposer l'armistice. Paul Reynaud et De Gaulle étant ministre à ce moment-là, enfin sous-ministre, vous savez, secrétaire d'État des Défense nationale, essayent de dire non, pas d'armistice, parce que c'est un geste d'État à État. Une capitulation race campagne, comme on dit, soit. C'est ce que l'armée hollandaise a fait avec la bénédiction de la reine d'Hollande, qui a dit vous ne pouvez pas continuer, ben vous capitulez. Jamais le maréchal Pétain, ni non plus les gens, n'acceptent ces idées. Car ils ont tous les deux une arrière-pensée, il faut un armistice qui nous permettra de traiter d'État à État et d'avoir tout de même un pouvoir sur la France. C'est ça que le maréchal Pétain va faire accepter, et c'est ça que la chambre du Front Populaire, vous avez bien raison, va en effet accueillir. Pourquoi? La plupart de ces députés sont matraqués, vous savez, comme tous les Français. Je me rappelle l'état d'esprit qui était le mien lorsque le désordre est arrivé, on ne savait plus trop où on était. Deux JO, nous n'avions pas, et la plupart des députés non plus, n'avaient pas une idée claire sur le maréchal Pétain. On ne savait pas tout ce que le maréchal Pétain avait fait en sourdine. On se disait, voilà un homme de prestige, qui peut-être, devant Hitler, sera respecté. Troisièmement, je crois qu'il ne faut pas oublier le travail de Véran qui a des chiffres et des savoirs qu'il y avait des gens qui n'accepteraient pas qu'une révolte quelconque se produise en France et qu'il y avait des armées, une armée française qui était là encore, il y avait les 100 000 hommes qui nous avaient été laissés par l'armistice et cette armée serait toute prête à intervenir si les députés n'étaient pas gentils. Il y a eu aussi le discours de Laval, un discours habile où Laval est un politicien qui parlait à d'autres politiciens et où il leur disait, comme s'il se frappait lui-même la poitrine, que la démocratie était coupable du désastre. Toujours qu'il y a eu un état d'esprit extraordinaire, effaré, une France matraquée, une France presque dans le coma, des députés qui ne savent plus où ils en sont et qui ont très peur d'un mouvement anti-parlementaire contre eux, et qui acceptent ce que le maréchal leur propose sans voir ce dans quoi ils vont entrer. Car le mot plein pouvoir a été utilisé plusieurs fois sur la Troisième République. C'est pas la première fois qu'un président du Conseil a dit plein pouvoir. Mais lorsque Pétain demande les pleins pouvoirs, il y a une idée derrière la tête qui est le renversement de la République. Ce que les députés dans leur ensemble ne conçoivent pas. Il ne voit pas ce que veut faire le maréchal Pétain, qui lui sait très bien ce qu'il veut faire, sa révolution nationale, apporter un fascisme français qui est, je puis dire, une sorte de mixture personnelle entre Salazar et Maurras, et la définition de Vichy, que je vais vous proposer, n'est pas de moi, elle est de Vermanos, et j'y souscris totalement, Vichy, dira Vermanos. C'est le triomphe d'une minorité impopulaire, qui depuis 20 ans cherchait en vain sa chance électoralement, et qui l'a trouvée dans le désastre de la patrie.